by you when you're falling, when the river is calling. Said I love you forever, we can make it together. What goes up must come down. There's lots of friendly faces all around, and nothing's ever lifting me higher than a touch of your sweet desire. What we're on will turn right. We just have to hold on through the night. As long as we are watching the fire, we'll be safe from the devil's choir. Stand by you when you're falling, when the river is calling. Said I love you forever, we can make it together. Yeah, yeah. Seems like nothing comes for free, yeah. And it won't take long. Your fragile soul will soon be strong. I'll carry you so tenderly. What I wanna say is that I stand by you when you're falling, when the river is calling. I said I love you forever, we can make it together.
Bonjour les amis, heureux de vous retrouver, plein d'infos et une belle citation dans le chat à l'instant. Une info, Alex nous dit que mon fils a gagné hier, donc manifestement ton fils a dû participer à une compétition hier et a gagné quelque chose. Et ben, nous te félicitons, on est très heureux pour la famille. Bravo à toi, bravo à lui et bravo à toute la famille. Et cette citation que je trouve très belle, très pertinente aussi, qui me met en joie de bon matin. Signé Yflin, oui. Bonjour tout le monde, soyez pipou entre vous. Oui, j'aime cette philosophie. Prenez soin de vos pieds, ce sont les seuls qui vous supportent chaque jour sans vous juger, vos pieds. Les seuls en capital. Je l'ai épinglé, je trouve ça très très pertinent. Est-ce qu'on se soucie assez de nos pieds? Je ne crois pas. C'est comme un... À mon âge avancé, c'est comme un flash à l'instant. Sur mes 54 ans de vie, quel temps ai-je consacré à m'occuper de mes pieds qui pourtant, effectivement, me supportent tous les jours sans me juger? Je ne sais pas. Je viens de tomber dans un abîme de perplexité. Peut-être que je suis passé littéralement à côté de ma vie. Ici, on aime les panards, hashtag gourmand, me dit Denisos. Ok, d'accord. Ok, je vais méditer là-dessus. Merci Citadis pour ce 45e mois. Ça fait un bail que tu n'es pas venu, me dis-tu. Et pourtant, 45 mois d'abonnement. Merci du soutien. Tsetset Tsubasa, 11e mois d'abonnement. Merci mon ami, qu'on va tu renifleur de pelle. Les meilleurs sont là, 41 mois d'abonnement. Thomas, 8 mois, merci beaucoup, c'est incroyable. 46 mois d'abonnement, qui dit mieux. Camille, merci d'être là. Jali pour le Prime, dit Letos. Formidable. Mes pieds et moi, après un ultra, on ne se regarde plus. Ah bah oui, c'est vrai. Quand ça court, ça court. Je crois que mon postérieur me supporte plus que mes pieds. Team Gamership, au potame. Du coca t'es le matin? Non. Non. Ah bah si. Tu as raison. En septembre, je vais devenir éducateur de rugby, tellement content et tellement excité. Waouh, Florian. C'est fou, en vrai. Trop bien. Je vais à ma réunion quand même, dit Framboise, qui a hésité quand même entre le taf et ce stream. Fait plaisir. Quelle chevelure luxuriante, quelle chevelure abondante, quelle chevelure indomptée, c'est magnifique. J'ai l'impression que ton chat et celui d'Elidia, c'est un autre monde. Ah, je sais pas, je pense qu'on a pas mal de viewers en commun, en vrai. Mais Elidia, je l'aime bien, elle aime bien troller, elle est très forte aussi. Abondante, oui, abondante.
Bah oui, quand même.
Non, le MVP, c'est 18h maintenant, Evans. On a changé l'oreille il y a quelques semaines. Oui. Je propose un 49.3 pour accéder à ton cœur qui dit mieux. Oh non. Yo, Bad 22. On a quelqu'un donc qui vient de se téléporter des années 80, voilà. Qui sans doute a pratiqué le hip-hop et a fait la toupie, voire le miroir, voire la danse du robot, plus que de raison, et qui donc nous salue par un yo dans le chat. T'as fait CMB de greffe. Le CMB est peut-être un combien. C'est un dialecte, un jargon des années 80 qu'il faut savoir décrypter. Je connais ce jargon. Donc yo, mon ami, voilà, amateur de breakdance, combien de greffes? Je dirais au moins 4. Voilà. Deux bras, je n'en avais pas. Deux jambes, ça fait 4. Plus 2-3 autres trucs. Je dirais au moins 4 minimum. D'autres questions, les hip-hoppers? Elidia est-elle toujours ma petite fille? Bien sûr, toujours, toujours. Elle le sera toujours. Toujours, toujours. Bon, on est peut-être sur un... On est sûrement sur un double stream aujourd'hui, puisque, comme je le viens de le tweeter sur le réseau du diable, Samuel doit-il créer un Insta dédié à ses pieds? Oui, je paie même 56%. Samuel, j'ai entendu que tu faisais du strip vers Barbès dans les années 60, c'est vrai. C'est ton premier message, Tommy Moza. C'est ton premier message sur cette chaîne. Samuel, j'ai entendu que tu faisais du strip vers Barbès dans les années 60, c'est vrai. Point d'interrogation. C'est ton premier message sur cette chaîne. Que répondre? C'est une question importante en vrai, dit Brescanard. Je me disperse. Donc, Samuel doit-il créer un Insta dédié à ses pieds? Je vous rappelle que j'ai déjà un OnlyFans consacré à mes yep. Voilà. OnlyFit. Hein, d'où je tire l'essentiel de mes revenus. Vous n'imaginez pas que entretenir un beau gosse comme moi n'a pas un certain prix. Voilà. Merci à tous les abonnés à ma chaîne OnlyFit. Voilà, c'est grâce à vous que je me régale, que je me gave. Même, voilà. Je ne donne pas le lien, c'est un lien qu'il faut savoir trouver, qu'il faut savoir chercher, qui se mérite, voilà. Et une fois que tu trouves le site, après tu peux avoir accès, sous certaines conditions, essentiellement financières, à un abonnement premium qui va te régaler, mon ami, tu vas te gaver de belles images de yep. Voilà, les miens, eh oui. L'onifit qui paye les chipots quotidiennes, oui, Pouma a raison. Pouma la rêve des habitués. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment être habitué de cette chaîne. On sera là? On sera là, Marc, on sera là. On sera là en juin. On sera là en juin. On sera là tous les jours en juin. Et on sera là, et je serai là pour toi, et merci pour ton message. Force, Marc. Qu'est-ce que je disais ? Oui, les habitués savent que mon régime alimentaire du matin est particulier. Récemment, j'ai supprimé le sucre de mon alimentation. Voilà. Mais en revanche, je n'ai pas changé la base de mon régime alimentaire du matin, qui est donc un petit déj à base de chipolata. Voilà, tous les matins, la petite habitude, le petit charbon de bois, hein, puisqu'on fait ça sur le barbecue, sur la terrasse de l'appartement parisien, en intérieur quand il fait pas beau, quand il pleut, en aérant bien sûr beaucoup, puisque c'était un peu compliqué le barbecue en intérieur, mais bon, les copropriétaires de l'immeuble n'ont pas encore réussi à identifier la source du barbecue matinal, et donc c'est de la chipot. Voilà, c'est chipot. Hein. Chipot, parce que protéines, et puis le un petit peu de gras, parce que le gras c'est la vie, le gras c'est le cerveau. Le cerveau, tout le monde le sait, a besoin de gras, hein, pour fonctionner, et cet esprit caustique, incisif et brillant du matin, dont je témoigne régulièrement, et notamment ce matin, c'est grâce au régime chipot. Voilà, comme le dit très bien Shark Varick, on va pas chipoter, c'est bon la chipot, tout à fait. Un bon nettoyage neuronal dès ce matin, dès le matin, je ne dirais pas mieux, Sugar. Attends, Sugar, j'ai pensé à toi. Oh, l'ami Nerd Factory, que j'ai vu en live tout à l'heure. La casquette triomphante, si je ne me trompe pas. La barbe vaillante, je me trompe pas, il y avait casquette ce matin. Voilà. Viens de nous raid, l'actualité de la tech, de tout ça, c'est tout, c'est quasiment tous les matins, je pense. Hein. Un petit shout-out, les amis Modo, est-ce que vous voudriez bien épingler la chaîne de Nerd Factory ? Casquette toujours, bien sûr. Je t'ai vu tout à l'heure en live, je t'ai vu. Je me suis dit, il est là, il est carré, il est fidèle, c'est un pilier. merci. Vous avez la chaîne, allez voir la chaîne là, de Nerd Factory, allez me claquer des follow là. Et je t'ai vu en live ce matin, ça me fait bien plaisir, merci pour ton raid. Donc, qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc, revenons à nos moutons. Double stream aujourd'hui, à minima. Théma, comme disent les jeunes. Théma-X, quand ils sont motorisés. Ce matin, en revue de presse, on lit les journaux ensemble, il y a des trucs plutôt intéressants. Et puis 18h, l'émission que j'aime. Voilà, MVP, une émission dont je suis très fier, qu'on a lancée en septembre dernier. MVP, ma vie pro, rien à voir avec le basket. Ou la NBA. Merci beaucoup. Hop, j'ai loupé un sub. Merci beaucoup, Cheb69. Merci, pain des pistes. Sugar, j'arrive. Je reviens. Merci, Dre Reed. Et donc, MVP, ma vie pro, l'émission qui explore. Mime d'exploration, regardez. Magnifique. Les voies professionnelles, pour que chacun puisse trouver la sienne. Tu es jeune, tu songes à ton avenir, tu ne sais pas ce que tu aimerais faire plus tard. MVP. Tu es moins jeune, tu as déjà commencé à construire ton avenir, mais tu te fais un peu yesh dans ton job, tu voudrais bien faire autre chose. MVP, baby, MVP, l'émission qui explore les voies professionnelles pour que chacun trouve la sienne. Spécial petit boulot, les petits boulots de l'été, est-ce que c'est, notamment quand on est étudiant, voilà, est-ce que c'est une bonne idée repos au boulot, déjà, voilà, et puis parfois on n'a pas le choix d'ailleurs. Et puis quel boulot, à quel salaire, dans quelles conditions, les petits tips, les petits conseils. Équipe de fous, Julien Méniel, Sunday, Ludovic B., voilà, et la fiche n'est pas assez grande. On a d'autres invités pro qui est une jeune femme qui fait un joli. Je crois qu'en job d'été, là, elle est tout sympa. Je crois qu'elle même elle est Roland Garros en ce moment. Elle doit être étudiante par ailleurs, je sais plus. Et puis invité surprise. Alors, est-ce que voilà, il faut trouver le métier. Est-ce que vous voulez que je vous donne le métier de l'invité surprise aujourd'hui ? Eh bien non, bien sûr, parce que c'est l'invité surprise. Soyez un peu concentrés, vous ne suivez absolument pas. Voilà. Donc ça, c'est MVP, double stream, comme on dit outre-Manche, outre-Atlantique, et peut-être même triple, j'ai envie de dire, puisque qu'est-ce qui m'empêche, hein, qu'est-ce qui m'empêche de foutre le feu, comme chantait le poète NTM il y a quelques années, mais qu'est-ce qui m'empêche, moi, hein, de foutre le feu à Twitch, voilà, peut-être la fatigue, c'est vrai, et de lancer un troisième stream ce soir à 22h15, en rentrant de MVP. Qu'est-ce qui m'en empêche? Hein? Qu'est-ce qui m'en empêche? Merci Panzer. Rien ne l'arrête, Panzer, c'est comme moi. Merci pour le Prime. Merci Marg0506. Merci la marmotte folle pour le quatrième mois. Hein? Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui m'en empêche? Voilà. Voilà. Foutre le feu à Twitch, ouais. La vie de famille, non, bah justement, les enfants partent en week-end ce soir, donc justement, ce ne sera pas ça, ce ne sera pas ça. Je vais me péter au stream, là, aujourd'hui et dans les prochains jours. Voilà. Ça va streamer jusqu'à épuisement. Ouais. Le délai est fort ce matin. Il n'y a pas de délai. Je l'ai enlevé. Non, il y a zéro délai. Paramètres, avancer. Non, il y a zéro délai. Il n'y a pas de délai. Zéro délai. Fin de partiel pour notre ami Clem. Félicitations. C'était bien ta traditionnelle soirée en amoureux hier. Ah, j'étais crevé. Je suis allé au lit super tôt. On a couché les enfants. Les enfants se couchent très tôt. Et je me suis allongé sur le lit comme ça. Comme ça. J'étais comme ça, je crois. J'étais épuisé. Voilà. J'avais mon iPad à portée de main. Je ne l'ai jamais allumé. Je me suis comme ça. Les yeux grands ouverts. J'ai attendu. J'étais dead. Ouais. Coucou Samuel, est-ce que tu penses que ton stream est une bonne recommandation pour quelqu'un qui veut s'améliorer dans son français, qui a déjà une bonne base? Carrément. Parce que ici, on explore la langue française. On explore. On explore la langue française. On essaye de parler de façon un petit peu construite et voire littéraire parfois, en utilisant des mots peu usités, voire surannés. Et puis, en même temps, on aime aussi explorer le côté un peu, je dirais, coquin et gourmand de la langue française, en jurant plus que de raison, avec plein de mots, plein de mots fleuris. Voilà. Donc oui, c'est carrément... Je vous rappelle que je suis chevalier des arts et des lettres. Hein. À la personne à qui tu vas recommander cette chaîne pour améliorer son français, rappelons que votre serviteur est chevalier des arts et des lettres. À quel moment dans notre société on décide de donner ce titre, cette décoration, cette médaille à Samuel Etienne? C'est bien le signe que quelque chose ne va pas. Hein. C'est quelque chose ne va pas. On voit bien qu'on est sur un début de fin. Hein, quand même. Comment tu as fini Chevalier des Arts et des Lettres? Je ne sais pas. C'était il y a quelques années, oui. Oui. Merci Nyatsuki. Ouais. Comme Francky Vincent? Ok, d'accord. Ok. Sérieux, Francky Vincent? Non. Bientôt la Légion d'honneur. Pop. Francky Vincent, Chevalier des Arts et des Lettres? Tu es sérieux là? Francky Vincent. Merde, mon Dieu. Attends. Vas-y, c'est bon. Fruit de la passion. Chevalier des arts et des lettres, pourquoi? Ah oui. Tout à fait. C'est vrai, c'est une vraie info. Le chanteur guadeloupéen, auteur de tubes comme Fruit de la passion, Alice Saglis, le tombeur, a été nommé dans l'ordre des arts et des lettres. Une gratification qui reconnaît sa participation au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde. C'est vrai, c'est une vraie info. Voilà. Je savais bien qu'on avait plusieurs points en commun avec Francky, notamment celle-ci, tout à fait. Chevalier avec l'armure et tout, bien sûr. Elle m'a été livrée à domicile, voilà, cette armure. Il m'arrive de la revêtir, voilà, avec l'aide de ma famille, parce que c'est très compliqué à installer, il faut être plusieurs. Je maraude, je patrouille, je me promène dans la rue, mi-détente, mi-mission de sécurité, quoi. Voilà, ça m'arrive. Je pense que tu es le seul joueur de Valo chevalier des arts et des lettres. Eh bien, ce n'est pas impossible. Nagui aussi, apparemment, il a une armure. Ah, ok, d'accord. J'ai un home, bien sûr, j'ai une grande épée qu'on tient à deux mains. Elle est très très grande, très très longue. Pour ceux qui connaissent un peu l'univers de The Witcher, c'est un peu ce type d'épée, voilà. Une épée et un cheval, bien sûr, un étalon même Bien sûr. Oui. Merci Darth Elliot. 28 mois, nom de Dieu. 28 mois. Un destrier. Merci la biche du gaming. Oui, pour le deuxième mois. Sugar, donc question. Sugar, est-ce toi que j'ai vu dans le chat hier dire que c'était ma 998e ranked ou un truc comme ça sur Valo? Que je venais de jouer ma 998e. Tu as une capacité à débiter des conneries, c'est admirable. Céline, je pense qu'en France, on a ce talent. On a ce talent, il ne faut pas le réfréner. Quand on écoute nos responsables, nos dirigeants, dans quelque univers que ce soit, je pense que c'est un talent français qui n'est pas assez assumé. Notre capacité à dire des bêtises. Voilà. C'est pas toi, Sugar? Attends, on est à combien de ranked? J'en ai fait 998. C'est ça? C'est ça? C'est 980. Ah, 988 ou 998? 988? Ok. Bon, quand on approchera de la millième, les gars, il faudra faire un truc. Hein. Je sais pas ce qu'on fera. Peut-être un petit live de 24 heures. Tiens, si je faisais ça, tiens. Demain. Hein? On fait un live de 24 heures. Et dans le live de 24 heures, bah, théoriquement, on place assez facilement la millième. Allez, hein? Salut Sam, heureux de t'avoir croisé dans le TGV Rennes-Paris il y a 2 semaines. Salut Nex. J'ai beaucoup passé de temps récemment dans ce TGV Rennes-Paris. C'était toi qui étais avec ton ami qui fêtait son anniversaire? Non? Et le petit week-end surprise, c'était pas ça? Les Serbes ne sont pas d'accord avec cette proposition. 24 heures, c'est has-been, il faut viser 48 heures, me dit Emma, qui veut donc ma mort. Ça n'est pas très amical. Prépare un lit pour Tommy. Tu démarres à quelle heure demain? Ambitieux comme plan. Mais genre, hier, t'étais claqué à 21h et là, tu veux lancer un live de 24 heures. Exactement, Patrouchka. Je veux mourir sur scène. Je veux mourir sur scène de ce projecteur. C'est Dalida, ça, non? Dalida. Laissez-moi mourir sur... Non, c'est pas ça. Nanana, nanana, nanana. C'est ça, hein? Ça, c'est de la pub, ça. Dalida, voilà. Mourir sur scène, devant les projecteurs, comme Dalida, comme Michel Drucker, hein, puisque c'est l'objectif, on l'a bien compris, avec Michel, voilà. En pleine. C'est un peu une version électro, tu as raison, Sugar. En pleine partie de Valo. Voilà. Par contre, le remix, là, non, là. Le remix, là, ça ne va pas. Ouais, vous avez raison. La version originale est bien plus belle. Ouais. Je n'arrive pas à savoir si j'adore ou je déteste la voix d'Aïda, mais dans le doute, bon, on va dire que j'adore. Tu as raison, Choupi. Merci, Grégistou. Merci, Fanfreluche. Merci, Skad, Ska, Parmal. 43 mois, nom de Dieu. Merci pour le message. Hier Elvis, aujourd'hui Daïda, demain Joe Dassin. Exactement, je suis en train de revisiter toute la musique d'avant moi. Bon les amis, je vous laisse à midi ce matin. Pourquoi? Parce qu'à midi, il faut que j'écrive mon MVP de 18h, sachant que je suis à 16h au studio pour enregistrer des petites chroniques avant. Voilà, donc là, il faut y aller. Il faut y aller, ok? Est-ce que j'ai votre feu vert? Est-ce que j'ai votre go?
Est-ce que vous me donnez le feu vert pour commencer cette émission? Oui.
Excusez-moi, j'avais bugué. Ok, donc on y va? C'est un oui général? C'est un oui général, c'est un oui général. Merde, tout est planté. Oui, let's go, petit sommaire. Ok, c'est parti. Bon, pourquoi des introductions où j'aime partir dans tous les sens pour nous offrir un petit moment de répit avant de passer à l'actualité, c'est-à-dire de rentrer un petit peu dans le dur. 3 jours, 3 revues de presse, on se fait plaisir. Peut-être même que demain il y aura une quatrième. à moins qu'on aille sur ce défi de 24 heures de Valo, je ne sais pas, je ne sais pas encore. Je vais vous parler du Proche-Orient, on a longtemps parlé, longuement et longtemps parlé de Gaza ces derniers jours et de la situation catastrophique que vivent les Gazaouis. On a un autre dossier qui vient éclairer cette réalité ô combien complexe. Voilà, c'est la Une du Parisien ce matin. Quand je vous parle du Proche-Orient, je vous dis aussi parfois que par Israël, quand on dit Israël, il faut faire attention à ce qu'on entend par Israël. Est-ce que le peuple israélien, c'est le gouvernement israélien? Est-ce que les Israéliens sont un peuple uni, sont d'accord entre eux sur leur politique vis-à-vis de Gaza? Voilà. Je vous dis, c'est comme si on disait les Français c'est Macron, les Français c'est Bayrou, vous me diriez évidemment non quoi. Le Parisien semble avoir fait ce travail ce matin de se pencher sur Israël, sur ce que pensent les Israéliens aujourd'hui. Au cœur d'un pays déchiré, c'est la une du journal. 600 jours après le début de la guerre contre le Hamas, l'envoyé spécial du Parisien est allé à la rencontre d'une population déboussolée, tiraillés, où les positions se sont souvent radicalisées. Voilà, donc c'est un gros dossier. Les tourments d'un pays devenu paria de la communauté internationale. On a vu un sondage très troublant il y a quelques jours, nous montrant qu'une majorité d'Israéliens soutiennent l'expulsion des Palestiniens de Gaza. L'opinion se durcit. On a regardé ce sondage et le Parisien revient sur ce sondage. À la rencontre notamment de plusieurs Israéliens, notamment de Français installés en Israël. Voilà, on prendra le temps de lire ce dossier. À mon avis, c'est assez intéressant. Merci Gone pour le Prime. Merci beaucoup. Donc gros dossier, 5 pages dans le Parisien ce matin. On commencera par ça me semble important. Ensuite, comme vous le savez. Il y a des actualités qui, parce qu'elles durent, qui doucement reculent dans la hiérarchie de l'information et dont on parle de moins en moins. Voilà. L'Ukraine, la guerre en Ukraine se poursuit et pourtant elle est peut-être moins présente dans les esprits et je dis hélas. Donc on n'oublie pas ce conflit, la Croix n'oublie pas ce conflit, c'est même la une du journal ce matin. On parlera d'Anne-Sophie Lapix, ouais, c'est ça, tout à fait. Hop, le journal. Voilà. Vivre malgré les drones, ça, c'est un reportage s'il veut s'ouvrir. Je sais pas ce que la Croix, ils ont changé leur appli là. Et alors, c'est la Croix et la bannière pour accéder au journal. Je n'ai pas trop compris s'il fallait cliquer, double-cliquer. Voilà, ça finit par marcher. Voilà. En Ukraine, les incessantes attaques de drones russes asphyxient les populations civiles. Donc, on a un reportage à Kherson, près de la ville de front de l'envoyé spécial pour voilà, on se penche sur le quotidien de désolation des Ukrainiens. Et on a un édito de Lou Besmont de Senneville qui est très intéressant. Voilà. En écho à ce que je venais de dire, voilà, ne pas oublier. Hein, Ukraine, ne jamais relâcher l'attention. Voilà. La vie à Kherson sous les frappes de drones. Et puis, on en parlait dès hier, y a-t-il un changement, une évolution de la position de Donald Trump sur la guerre en Ukraine? Azoulien, un édito, c'est un article où le journaliste donne son avis. Voilà. Voilà. C'est un journaliste ou un type d'article où le journaliste vous dit, c'est un éditorial, attention, je vais vraiment vous donner mon avis sur ce sujet, vous en faites ce que vous voulez, je vais au-delà des faits. C'est un éditorial. Voilà. Et donc Trump, par certains propos, pourrait laisser penser qu'il est en train de changer d'avis sur Poutine, hein. Trump dont on aurait pu qualifier jusqu'ici son comportement de pro-Poutine. Et là, il semblerait, je suis très prudent parce qu'avec Trump, c'est compliqué, il semblerait réviser son jugement. Voilà. Comme le dit Kilgren, changement dans la position de Trump, mais ça dépend, on est quel jour, mercredi, exactement. Ouais. Donc on lira ce dossier dans la Croix sur l'Ukraine. En troisième actu ce matin, le tabac, avec une bonne nouvelle, je pense, pour la santé des Français, pour la santé publique, voire pour nos finances, c'est dans le Figaro ce matin, page 3. Bah, vous remarquerez que c'est plus facile de voir le Figaro que la Croix. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait la Croix avec leur appli. Hein. Bon, le journal reste excellent, mais... non, c'est pas page 3, je me suis trompé, c'est page 11. Regardez, le tabac n'a plus la cote. Voilà. Le tabac n'a plus la cote en France. Fumer est de moins en moins accepté par dans la société française selon deux études des autorités de santé publique. Alors c'est pas une enquête tellement sur les ventes de tabac, parce que en plus elles sont faussées, parce qu'il y a beaucoup de gens, enfin il y a des gens qui n'achètent pas leur tabac dans les circuits officiels, notamment aux frontières, n'est-ce pas? Pardon. Alors c'est plutôt l'image du tabac, voilà. Et qui montre que vous verrez, l'image du fumeur s'est beaucoup détériorée et c'est moins hype, quoi. Voilà. Et on a aussi des chiffres qui nous laissent penser que globalement, la consommation de tabac est en train de baisser en France. Locke me dit, voilà, hier soir, j'étais le seul de mes potes à fumer en terrasse. Voilà. Sarah, je reviens, je pars en pause club. Ok. Quand est-ce qu'on l'interdit? Non, il ne faut pas interdire, Clément. Il faut juste inciter les gens à ne pas le faire, à se faire du mal, à leur santé, à leur portefeuille. Et on parlera de la vape aussi. On parlera de la vape, puisque vous êtes beaucoup, vous êtes plusieurs à me poser des questions sur... mais est-ce qu'on parle de la vape? Oui, on en parle. La vape qui est à la fois un instrument qui peut aider à arrêter de fumer, mais la vape qui peut aussi être un moyen d'aller vers le tabac et la cigarette. Voilà. Donc c'est un outil un peu ambivalent sur lequel les spécialistes ont du mal à avoir un avis définitif. Voilà. Surtout pour les jeunes, exactement, Sugar. Quelle pertinence. Puisqu'on parle des jeunes, peux-tu trouver un article sur les poils de nez, la fréquence de tonte, s'il te plaît, préoccupation importante des Français dans le chat, Clamakin is back. Je n'ai pas besoin d'article. Hein. Sur le sujet, c'est un sujet que je maîtrise, que je connais, sur lequel j'ai travaillé. Donc je fais une petite parenthèse là-dessus. Les articles de poils de nez, la fréquence de tonte, sachez, je pense que si vous avez un certain âge, vous le savez aussi, c'est... La pousse des poils dans le nez, et pour les plus malheureux dans les oreilles, voilà, est un espèce de miroir inversé de la pousse des cheveux chez l'homme. C'est-à-dire que moins tu as de cheveux sur le caillou, plus tu vieillis aussi, et bien plus tu as de chances d'avoir des poils dans le nez. Alors, ce serait formidable de pouvoir te prendre les poils de nez et te les mettre sur la tête. Je ne sais pas si ça a déjà été tenté. Je connais cette théorie. Non, ce n'est pas une théorie. Et donc, passé un certain âge, notamment chez les hommes, je pense qu'il faut accepter de passer un petit coup de tondeuse dans ses narines, hein, pour que quand vous parliez à un interlocuteur à une distance inférieure à 2 mètres, que la personne en fait ne soit pas dans l'incapacité de vous entendre tellement elle est obnubilée par cette forêt vierge qui sort de chacune de vos narines en se demandant: est-ce qu'il y a de la vie dedans? Est-ce qu'il y a des animaux? Est-ce qu'il y a un petit singe qui va sauter du nez pour se balader, sauter de poil en poil? Est-ce que, voilà, oui. Donc il faut mettre un petit coup de tondeuse. Il y a des tondeuses spéciales. Il y a des tondeuses spéciales, il y a des mini tondeuses spéciales qu'on se met littéralement dans le pif. Voilà. Perso, je fais une petite pointe avec du gel, je trouve ça sophistiqué. Ok, Rindershack. Voilà. Donc, et pour l'arrière-train, tu conseilles quoi? Ok, on va enchaîner donc. Hein. On va enchaîner avec les sujets suivants, parce que vous êtes d'humeur badine, je vois. Et on va rester avec les jeunes. Question. Dans l'humanité, page 23. Beaucoup de trolls, dis donc, pas du tout. Nous sommes sur des sujets essentiels ici. Attendez. Kiosque. J'ai un robot tondeuse qui parcourt mon corps toute la journée perso. Me dit Inverse Distribution. Incroyable. Incroyable. Ok, chacun me raconte cette histoire de poils. C'est fascinant. On ira donc dans l'UMA, page quoi? Page 23, je crois bien. Ah! Et ça, c'est une question que je me pose. Faut-il interdire les réseaux sociaux avant 15 ans? Oui, mesdames et messieurs. Nous sommes mercredi. Il y a peut-être des moins de 15 ans dans ce chat. Levez la main, ceux qui ont moins de 15 ans. Voilà. Et je vois du oui, et je vois du oui. Hop, hop, hop. Oh là là, il y a du oui, il y a du oui. On fera peut-être un sondage d'ailleurs. La France souhaite restreindre l'accès à ses plateformes numériques et de partage de contenu pour les plus jeune. Des discussions ont lieu avec les principaux acteurs en vue d'un accord au niveau européen. Qu'est-ce qu'on aime ici? On aime, sur un même sujet, avoir des arguments opposés pour que nous puissions nous faire notre propre opinion à partir d'arguments. Là, parole donnée par l'UMA à deux personnes. On a trois mêmes, parce qu'à ma gauche, vous avez deux personnes. Sylvie Dieu Osika et Eric Osika. Tiens donc, le même nom de famille. Pédiatre, membre du collectif sur exposition écran. Donc, pour eux, ils disent qu'il faut vraiment aller vers l'interdiction. Voilà. Et Evan Giraud, qui est doctorant en psychologie, et qui dit « L'interdiction ne produit rien d'autre que des effets nocifs. La solution réside notamment dans l'accompagnement, et non pas dans l'interdiction, de l'usage du numérique. » Voilà, hyper intéressant, on lira ça. Voilà. La vraie question, c'est pourquoi? Bon, on verra tout à l'heure. Le petit sondage, non! Là, c'est le sommaire. C'est par là qu'on en... C'est pour ça qu'on en parlera tout à l'heure. Ça, c'est le sommaire. S-O-2-M-I-R. Le résumé. Le teasing. Le before. Voilà. La préface. Etc. Et puis... c'est une de mes marottes, ça. Je vais encore gueuler. Ouais. C'est agenda. Ouais. Tu ne peux pas accompagner autant d'enfants. ça, c'est une de mes marottes. Et je suis content de voir que cette marotte se partage, que d'autres que moi se soucient de ce sujet. Alors, je sais que je me fais le prélude, la table des matières. Je sais que certains ne sont pas d'accord avec moi sur ce sujet. Au cours de mes recherches pour des voyages familiaux, je me suis rendu compte que parfois, notamment j'avais fait l'expérience pour la Grèce, dans des beaux hôtels en Grèce, on va, page 13 dans les échos, eh bien, certains hôtels interdisent la présence des enfants. Voilà. Hein, pour garantir à leurs clients, voilà, plutôt clientèle de luxe, c'est plutôt pour des établissements haut de gamme. Alors, il est où mon truc, là? C'est page 13. Je l'ai passé. Là, c'est un tout petit truc en bas à droite. Là. Alors, clientèle un peu aisée de la tranquillité. Voilà. Hein, disant, voilà, vous allez payer un certain prix pour avoir votre belle chambre. Voilà, ce petit moment d'intimité, de repos, dans un cocon de volupté. Eh bien, on vous garantit qu'il n'y aura pas de char, hein, qu'il n'y aura pas de gosse, qu'il n'y aura pas... de ces petits êtres bruyants et sales qui courent partout, qui font du bruit, voire même qui pleurent quand ils sont tout petits. Voilà. Et donc moi, j'ai constaté ça en faisant des recherches. Et philosophiquement, ça m'a choqué. Voilà. Cette discrimination aux familles et aux enfants, en disant, ben voilà, que... une partie de la population, en tout cas les moins de 18 ans, n'était pas bienvenue dans certains endroits. Voilà. Alors moi, je suis pas... Moi, je suis... Alors certains disent, oui, mais ils font ce qu'ils veulent, et puis c'est un établissement privé, et puis après, pourquoi pas, et puis on a bien le droit. Bon, vous pensez ce que vous voulez. Moi, je trouve que, sur le fond, ce n'est pas un très bon signe que la société envoie. Donc en fait, les gens là, qui s'achètent ces week-ends un peu préservés des enfants, ils sont bien nés de quelque part. Ils ont bien été enfants eux-mêmes, et qu'ils ont bien été enfants et devenus adultes, c'est qu'à un moment, la société les a tolérés, les a acceptés, les a intégrés, les a peut-être même accueillis les bras ouverts. Quoi. Voilà. Et moi, ça m'ennuie toujours quand des adultes, qui donc ont été enfants, voilà, décident à un moment que dans leur entourage, dans leur univers, il n'y en est plus. Quoi. Et là, je vois dans ce petit papier que, en fait, une responsable politique s'appelle Sarah El Haïry, qui a été ministre, qui est aujourd'hui haute commissaire à l'enfance, eh bien, a décidé d'inciter les professionnels du tourisme français à ne pas s'embarquer sur cette voie qui est essentiellement aujourd'hui, qui se développe à l'étranger, notamment en Asie. Voilà. En France, c'est que dalle. Hein, je crois qu'il y a aujourd'hui, en France, il n'y aurait qu'une vingtaine d'hôtels et une vingtaine de campings interdits aux enfants. C'est rien en France, c'est vraiment ultra minoritaire, ça n'existe pas. Voilà. Mais Sarah Larry dit, attention, moi personnellement, je ne veux pas qu'on aille vers dans cette voie-là, et je suis d'accord avec elle, et je vous dirai pourquoi. Et je vous dirai pourquoi. Évidemment, vous avez le droit de ne pas être d'accord, c'est intéressant, et de trouver formidable qu'on puisse avoir des endroits comme ça où il n'y a pas d'enfants, voilà, en acceptant donc cette discrimination anti-enfants. Auquel cas, dans la grande mensuétude qui est la mienne, je pratiquerai une discrimination anti-viewer, anti-enfant, et je vous bannerai def, bien sûr, puisque, après tout, hein, on n'est pas une discrimination près. Donc j'entendrai bien sûr votre position et je vous bannerai def illico. Si on tolère cette discrimination, on peut bien en créer une autre. Je plaisante, bien sûr, vous ne serez pas ban def. La team premier degré va râler parce que tu donnes ton avis ça. Mais c'est ça qu'on aime aussi. C'est ça qu'on aime aussi. Juste Théo 10 ans, c'est ça. Est-ce qu'on finit avec ça? Non. Ah oui. Et on finira par Anne-Sophie Lapix. Eh oui. Anne-Sophie Lapix qui, vous me l'avez appris hier en plein live, eh bien a été remerciée. Débarquée même, dit le Parisien. Par la direction, par sa direction, du 20h de France 2. Voilà. Page 26 et 27, donc c'est le Parisien qui en parle le plus ce matin. Voilà. Double page, je crois. Ouais. Voilà. Évincé et maintenant. Évincé, pourquoi? Parce que c'est pas son choix. Elle voulait rester. Ah, c'est pas elle qui part? Ah, bah non, carrément pas. Elle avait même dit clairement qu'elle voulait rester, donc elle est vraiment débarquée. Voilà, elle est virée, hein, voilà. Donc voilà, elle a un rendez-vous, on lui a dit, bon, on veut plus de vous, quoi. Voilà, on va mettre quelqu'un d'autre, on sait pas qui encore. Quelqu'un me demande si elle va rester, alors France Télévision voudrait bien qu'elle reste, faire un autre truc. Elle n'a pas répondu, encore, à cette injonction à rester. Et alors, pourquoi débarquer? Pour quelle raison? Quel a été son apport à ce journal? Anne-Sophie, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, hein, par ailleurs, donc J'ai un avis là-dessus et je me permettrai de partager avec vous parce que c'est une grande professionnelle et que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je connais un petit peu professionnellement et humainement. Je peux vous dire que c'est une grande dame, voilà, Anne-Sophie. Et donc, on se penchera sur ce sujet. Il y a deux pages dans le Parisien. Ah oui, elle était très méchante parce qu'elle poussait les politiques à répondre aux questions dites de l'Irak. C'était peut-être ça le problème, effectivement. Quelle idée de poser des questions à des hommes plus puissants qu'elle aussi. Exactement. Exactement. C'est aussi un petit peu mon avis. Voilà. Enfin, en tout cas, mon avis sur son travail. Très bonne journaliste. Pas mal, non, comme petit sommaire? T'en pensez quoi? Je sais de source sûre qu'elle va dans des hôtels anti-enfants, me dit Arthur Rizio. Merci Yanis Léris. Merci pour le soutien. Il y a quelques jours, tu disais que les présentateurs apprennent leur licenciement dans la presse. C'est son cas? Non, je crois qu'elle a quand même eu le droit à un rendez-vous avec sa direction et qu'elle l'a appris de sa direction avant de le lire dans la presse. Ce qui est plutôt pas mal. C'est pas toujours le cas. Ouais. Tu as le replay NES lundi. On en a parlé très longuement lundi de la loi sur l'aide à mourir. Très longuement. Et donc, tu auras ça dans le replay de la revue de presse de lundi. Ouais. Peut-être on arrivait sur Twitch. Je ne sais pas, moi. Attends, laissez-moi regarder. Qu'est-ce qu'on s'est dit avec Anne-Sophie, là, hier? Yolé, yolé, yolé. Ah non, ça, c'est quand on parlait de Shakira. Ça, c'est autre chose. Ok. Ah oui. Non, je ne peux pas. Non, ça, c'est de la correspondance privée. Bon! Est-ce que vous êtes prêts pour la revue de presse? Hein? Vie? J'ai un go?
Est-ce que vous êtes prêts pour la revue de presse? Oui. Tapez 1. Non. Tapez 2. Si vous n'y avez rien à foutre, tapez 3.
Let's go. Allez, bon, redonnons sérieux parce que le premier sujet. L'être infiniment sérieux, let's go. Israël, c'est la une du Parisien ce matin, au cœur d'un pays déchiré. Un reportage de l'envoyé spécial du Parisien sur Israël. 600 jours après le début de la guerre contre le Hamas, notre envoyé spécial était à la rencontre d'une population déboussolée, tiraillées et où les positions sont souvent radicalisées. Que dit Marie-Christine Tabet dans son édito ? Marie-Christine Tabet, directrice adjointe de la rédaction du Parisien, un édito, c'est donc un article où le journaliste donne son avis. La fracture. La guerre contre la masse ronge une société israélienne traversée par ces doutes que seules les démocraties éprouvent. Malgré le traumatisme incommensurable infligé par le Hamas lors des massacres du 7 octobre, la détention sans fin des otages, des voix s'élèvent en son sein, donc, en Israël, pour dénoncer, ça je vous l'ai toujours dit, il y a des Israéliens qui dénoncent ce qui se passe, le calvaire des Gazaouis assiégés, affamés, bombardés. Les Gazaouis frappés d'une double peine, celle du Hamas qu'ils utilisent comme bouclier humain, et aussi celle d'Israël, bien sûr, dont les armes tuent sans distinction femmes et enfants. Eh oui, Mathieu, il faut travailler un petit peu. Ouais, Israël est une démocratie, avec des élections. Voilà. Eh oui, démocratie se caractérise par essentiellement le fait que les citoyens désignent les gouvernants. Voilà. Après, une démocratie peut faire de la merde. Mais là, tu l'as oublié, c'est pour ça que tu fais des MDR dans le chat. Voilà. Une des rares démocraties de la région, d'ailleurs. Eh oui, c'est la base. Un an, 7 mois et 21 jours après le début de cette guerre, la stratégie du gouvernement Netanyahou fracture chaque jour un peu plus son opinion publique. Et au-delà, des Français de confession juive s'en sont récemment fait l'écho, comme la rabbine Delphine Horvilleur, hein, c'est une femme rabbin, en évoquant cet amour d'Israël qui consiste aujourd'hui à l'appeler un sursaut de conscience, demandant à ce pays chéri d'être à la hauteur de son histoire ancestrale. Hein, je vous demande, sur ces sujets les plus sensibles, de maîtriser un peu vos propos dans le chat et de tourner cette fois votre langue dans votre bouche avant de d'écrire n'importe quoi. Telle une faille sismique, cette fracture se propage dans le reste du monde. La déchirure s'étend du sud au nord. Début mai, une quinzaine d'États, merci mon ami, j'arrive, de l'Union européenne sur 27 sont déclarés favorables à la révision du contrat d'association de l'UE avec Israël. En France, depuis des mois, le sujet embrase la vie politique. Des barricades se dressent dans nos propres rues. Les cortèges qui défilent pour alerter sur la situation en Israël ou à Gaza sont le reflet d'une communautarisation grandissante, juif d'un côté, jeunesse issue de l'immigration de l'autre, qui se vit héritière de la cause palestinienne. Cet édito est plutôt pas mal. Édito, voilà, pas un avis d'ailleurs, qui donne pas forcément un avis tranché, mais qui dresse un peu le tableau. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un reportage qui est réalisé par quelqu'un qui est sur place, hein, l'envoyé spécial en Israël et en Cisjordanie du Parisien qui s'appelle Robin Corda. Donc il y a beaucoup de rencontres aussi, quoi. Merci beaucoup, Yveline. C'est gentil. Avida, il y a longtemps cru, Avida. En scrutant la bande de Gaza, cet agriculteur du sud d'Israël se disait qu'en donnant des opportunités aux Palestiniens, ceux-ci finiraient par accepter la présence d'un État juif. L'homme de 52 ans remet sous son genou la prothèse qui prolonge sa jambe. Aujourd'hui, même mon père dit qu'il faut tous les tuer. L'instinct de survie a d'abord parlé. L'usure de voir partir ses combats combattre pour une guerre qu'ils n'ont pas voulu a fait le reste. Autour du kibbutz de Berry, les parkings des bases militaires sont bondés de voitures de réservistes. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou promet que l'ensemble de la bande de Gaza sera bientôt sous le contrôle d'Israël. C'est le projet. Ailleurs dans le monde, les dirigeants s'indignent. Israël est en train de devenir un État paria, comme l'était l'Afrique du Sud, a récemment averti le travailliste Yair Golan, suscitant la polémique dans son pays. Les autres pays ne comprennent pas notre guerre, car ce n'est pas une guerre contre un pays, rétorque Avida, le monsieur du début, là. En face de nous, ça n'est pas le Luxembourg. Alors, qui est Avida, ce monsieur, en 2023 ? Il a perdu sa femme et son fils aîné dans l'assaut de son pavillon. Donc lors de l'attaque du Hamas. Voilà pourquoi Avida a changé d'avis sur les Palestiniens. Désormais, Avida ne veut voir de chez lui jusqu'à la mer qu'un champ de pommes de terre. Gaza doit être évacué, dit-il, jusqu'au dernier habitant. Selon un récent sondage de l'Université d'État de Pennsylvanie aux États-Unis, donc c'est un sondage qu'on a évoqué il y a deux jours, là, qui nous a surpris par son résultat, 82% des Juifs israéliens, parce qu'en Israël, il n'y a pas que des Juifs. Hein. 80% des Juifs israéliens soutiennent l'expulsion forcée des Palestiniens de Gaza, Près de la moitié des sondés approuvent l'idée que l'armée agisse comme les Israélites lors de la conquête de Jéricho, en tuant tous les habitants de chaque ville conquise. D'où sort cette stat ? Je viens de Spinoza de donner la source à l'instant. Ça n'est qu'un sondage, bien sûr. Dans la bande de Gaza, les experts s'accordent à chiffrer de désastres à des dizaines de milliers de morts. Plus de 90% des habitations seraient détruites. On en parle régulièrement ici. Tel Aviv filtre l'aide humanitaire, pour ne pas dire l'empêche carrément. 2 millions d'habitants vivant sous les bombes crient leur faim et leur détresse. Lundi, le Hamas a assuré qu'il avait accepté une proposition de cessez-le-feu de 70 jours contre la libération de 10 otages israéliens. A priori, il en resterait 59, dont 20 en vie, et le retrait partiel des troupes de Tsahal. Sur son perron, Avida, le monsieur là, a affiché les photos de Dana, 48 ans, qui porte une couronne de fleurs à côté du sourire de Carmel, 15 ans, dévoile des bagues d'adolescents, donc sa femme et son fils. Dans la chambre forte de la maison, Agar, la plus jeune, les a vus mourir, puis elle a regardé son père, criblé de balles, se vider de son sang. « S'il te plaît, ne me laisse pas toute seule », supplie-t-elle. Mercredi dernier, un homme a ouvert le feu sur 2 employés de l'ambassade d'Israël à Washington au cri de libérer la Palestine. Yaron et Sarah avaient 30 et 26 ans. Le jeune homme venait d'acheter une bague de fiançailles. Avida hausse les épaules. Israël doit se soucier de lui parce que personne ne se souciera de nous. Dès le début, un sentiment d'injustice a saisi l'État d'Hébreu. Quelques jours à peine après les massacres du 7 octobre, des mains anonymes arrachent les affiches d'otages dans les rues occidentales. À Paris, on l'a vu ça par exemple. Quelques jours à peine après la guerre qui a suivi à Gaza, les accusations de génocide accablent ce pays de rescapés de la Shoah. Les fêlures se réveillent, plus béantes que jamais. Le gouvernement israélien a approuvé lundi la mobilisation de 450 000 réservistes jusqu'au 31 août, c'est un record. Des objecteurs de conscience se retrouvent en prison. Les objecteurs de conscience en Israël. Merci Zérog. Chaque samedi en Israël, des manifestants demandent d'arrêter la guerre. La plupart des Israéliens veulent récupérer les otages. Ces gens pensent qu'Israël vivra toujours, regrette Avida. Moi je pensais que ma femme vivrait jusqu'à 85 ans à mes côtés. Les différents papiers, je regarde vite fait. C'est intéressant. Là, vous avez un jeune couple qui quitte Israël, là, qui font un break. 46 et 47 ans. Voilà. Il s'installe en Europe pour faire un break. Salut Loupiote, ça va Malou, tu vas bien? Merci de te voir, ça me fait plaisir de te voir. On parle d'Israël. Les cartons patientent déjà entre le mur pastel et bras du canapé dans leur salon aux grandes baies vitrées à Tel Aviv. Noémie et Gilles, ont commencé à faire le tri. Le 11 juillet approche, après des mois de discussion, ce couple de cadras s'apprête à quitter l'État hébreu avec ses enfants pour les Pays-Bas. On a besoin d'un break, disent-ils. En Israël, les attentats du Hamas en octobre 2023 ont d'abord créé un temps de sidération. Puis dans ce quartier bobo de la métropole, le couple a vu les autres parents d'élèves faire tour à tour leurs adieux. C'est un tsunami, dit Gilles. D'après le Bureau central des statistiques israélien, 80 000 citoyens sont partis en 2024 d'Israël contre 35 000 les années précédentes. Israël, c'est un pays où on va, où les juifs du monde entier s'installent régulièrement. Comment on appelle ça? C'est l'Aliya? Je sais pas, c'est comme ça, non? Voilà. Et là, c'est aujourd'hui un pays qu'on quitte aujourd'hui. Également, les chiffres sont là. C'est Aliya. Hein, c'est ça, Aliya. Gilles, donc, est psychiatre, lui, spécialiste dans l'optimisation cognitive. Il est né en Israël. Et il dit Israël change. Il dit Israël devient plus conservateur, plus religieux. Ça, c'est vrai. Et Gilles a peur que ce processus se poursuive et empire. Dans le sud du pays, les villages collectivistes ont longtemps porté l'idéal d'un État solidaire, laïque, égalitaire. Si cet Israël des kibbutz est de retour, on pourra toujours revenir. Bon, je rappelle le paradoxe de dingue, c'est que les victimes de l'attentat, des attaques du Hamas en octobre, c'était des gens qui vivaient dans les kibbutz. C'était sans doute parmi les Israéliens qui étaient le plus pro-palestiniens. Hein. Les gens qui avaient un certain idéal et qui étaient les plus pour une main tendue vers les Palestiniens, pour une solution des deux États vivant côte à côte pacifiquement et très loin des colons, quoi. C'est quand même un paradoxe ultime que les victimes étaient sans doute ceux qui étaient le plus pour la paix. Voilà. Un vieux dicton un peu kitsch lui revient, ce monsieur. On ne peut pas acheter le bonheur, mais on peut acheter un billet pour Tel Aviv. La côte regorge de soleil, de rencontres, les gens s'invitent à la maison après trois banalités, les glaces chaque week-end, blablabla, blablabla. En Europe, la maman redoute le blues des hivers sans lumière, mais surtout l'antisémitisme, les partis pris, les gens qui croient savoir. Voilà. Beaucoup de gens ne savent pas qu'on essuie des missiles, qu'il y a encore des otages, que tout le monde ne supporte pas Netanyahou. Au lendemain du 7 octobre, Tsahal n'est pas encore entré dans Gaza, qu'on lui fait comprendre que son pays l'a bien cherché. Donc ils vont s'installer à Amsterdam. Donc ils partent parce qu'ils trouvent que leur pays change, mais ils partent en s'inquiétant aussi du regard que là-bas à Amsterdam on va porter sur eux, Israéliens, peut-être un regard accusateur, un regard estimant que s'ils sont juifs et israéliens, ils sont forcément pro-Netanyahou et forcément contre les Palestiniens. Et il y a beaucoup d'Israéliens qui vivent ça aujourd'hui. Moshe, encore un autre portrait, c'est Moshe. « 69 ans, rencontré samedi sur la place des otages à Tel Aviv, Israël. Pendant 2 ans, ce forgeron à la retraite s'est occupé de Gazaoui. Il se rendait au checkpoint militaire, ça je connais les checkpoints militaires, c'est quelque chose que je suis allé voir, qui délimite l'enclave palestinienne et récupérait de jeunes patients, souvent accompagnés d'un parent. Le 7 octobre 2023, des hordes de terroristes se sont échappés de ce même territoire pour semer la mort. À leur retour, ils ramènent dans leur villa, dans leur sillage, Agar, Ofri, Yuval et Uria, la fille et les trois petits-enfants de Moshe, qui lui était bénévole pour s'occuper, vous l'avez entendu, des Gazaouis. Il passe 51 jours dans les geôles du groupe islamique avant d'être relâché finalement. Il y a toujours un chemin, s'accroche le retraité, qui observe depuis 600 jours une société qui s'arc-boute. Dans le kibboutz de ses petits-enfants, une monitrice se battait pour les droits des Palestiniens. Elle dit aujourd'hui qu'elle ne leur fait plus confiance. Mon seul espoir, dit Moshe, ce sont les gouvernements étrangers. Comme lui, c'est marrant parce que c'est quand même quelqu'un qui a vécu dans sa chair les attaques du Hamas, puisque manifestement sa fille et ses petits-enfants ont été enlevés, mais ils ont été relâchés. Et c'est quelqu'un qui semble toujours souhaiter la paix, quoi. Mon seul espoir, ce sont les gouvernements étrangers, dit-il. Comme lui, quelques milliers de manifestants brandissent chaque semaine le visage d'enfants palestiniens fauchés dans les frappes de Tsahal. Des religieux les prennent parfois à partie. En 2021, deux copains de son kibboutz de Gvulot lui avaient parlé de cette association, La Voix de la Guérison, qui souhaitait donner aux Gazaouis l'accès au système de santé de l'État hébreu. Je voulais montrer aux Palestiniens qu'il y avait aussi des gens bien ici. Peut-être qu'ils nous haïraient moins. Son village a reçu des Palestiniens dans les champs alentours pendant des décennies. Des liens fragiles se sont tissés avec le temps. Moshe parle souvent, par exemple, de Rafik, paysan qui travaillait pour sa femme agricultrice. Un jour, elle l'a appelé pour lui dire qu'il fallait qu'il rentre chez lui au plus vite. Un colon avait tué son fils. Aujourd'hui, Moshe veut croire encore que la plupart des Gazaouis rêvent seulement d'une autre vie. Le 7 octobre, 3000 terroristes sont entrés en Israël. 2 millions de personnes vivent dans la bande de Gaza. Est-ce que je dois en dire plus ? Il avoue que l'immense majorité des habitants de l'enclave surpeuplée doivent haïr Israël parce qu'ils sont nés là-bas, qu'on les a élevés ainsi et qu'ils n'ont pas d'espoir. Mais il précise aussitôt que les enfants d'Israël eux aussi grandissent sans connaître leurs voisins. En 19 mois, le journal rappelle que les opérations de Tsahal L'armée israélienne aurait fait près de 50 000 morts. Hein. La réconciliation prend donc des airs de douce utopie. Pour que deux camps s'entendent, dit Moshe, il en suffit parfois d'un qui se montre plus intelligent et il continue à y croire. Après la guerre, il espère reprendre son activité dans son association. Mais ce que j'aimerais vraiment, ajoute-t-il, c'est qu'un jour les hôpitaux palestiniens soient assez développés pour que les habitants n'aient plus besoin de venir se soigner ici. Voilà pour une partie du dossier. N'hésitez pas à lire Le Parisien. Mais je trouve intéressant ce dossier parce qu'il nous montre que la société israélienne n'est pas une. Elle est divisée comme toutes les sociétés du monde entier et qu'il y a des Israéliens qui continuent à croire en la paix, de même qu'il y a des Israéliens qui ont toujours voulu la paix, même s'ils sont moins nombreux aujourd'hui, dans une société qui a été traumatisée par les attaques du Hamas d'octobre 2023. Voilà. Je trouve que quelle proportion? Alors ça, c'est très compliqué à mesurer. Ce sondage qui parle de 80% des juifs israéliens qui sont pour le fait que tous les Palestiniens dégagent de Gaza, il est assez étonnant. Voilà. Est-ce qu'il est fidèle à ce que pense réellement la société israélienne? Ça, je ne peux pas le dire. Ce qui est sûr, c'est que des pacifistes israéliens hier, pour certains, sont devenus bellicistes. Je vous lis un petit peu sur ce sujet ô combien compliqué. Salut Ninou, Nilou, Jukebox pour ton premier message, c'est sympa. Je vous lis, hein. Pardon, je prends le temps, hein. Merci Abrage. Dredd super qui nous rappelle la pensée de Nietzsche, le philosophe allemand. Nietzsche a conceptualisé le cercle vicieux de la violence subie et de l'esprit de vengeance. Quand tu as subi une violence et que tu es dans une position de victime avec le ressenti qui va avec, en réaction, il est possible d'être dans la rancœur et la vengeance. La vengeance, les batailles mortifères. Et le fameux bouc émissaire que représente la Palestine. Il faut arrêter cela et être plus dur avec Israël aujourd'hui, tout en donnant les possibilités d'un avenir pacifique. Je crois que tu as raison. Salut Ursien, merci Poulet pour le prime. Les agressés d'hier sont les agresseurs de demain. Merci à Ancien Quay. Il n'y a pas de vraie opposition politique à Netanyahou, non. Alors c'est la vie politique israélienne, elle est compliquée parce que c'est vraiment un régime parlementaire quasiment pur avec une proportionnelle, ce qui fait qu'en fait aucun parti n'a jamais la majorité absolue en Israël. C'est un peu ce qu'on vit en ce moment pour d'autres raisons en France. Voilà, c'est la conséquence de ce scrutin proportionnel intégral régime parlementaire. Et donc, en fait, c'est un système qui favorise les alliances et donne énormément de pouvoir aux petits partis qui sont des faiseurs d'alliances, en fait, qui sont ces petits partis dont ont besoin les plus gros pour faire coalition. Et là, par exemple, c'est le cas avec Netanyahou qu'on peut considérer comme de droite dure, mais qui s'est allié à l'extrême droite israélienne pour réussir à former une coalition, quoi. Ce qui donne la tonalité politique droite/extrême droite de ce gouvernement, quoi. Donc l'opposition, elle existe, mais comme dans toutes les oppositions, elle n'est pas au pouvoir, hein, puisque la coalition, elle est droite/extrême droite. Et tout peut changer à la faveur d'élections, bien sûr, quoi. C'est en ce sens que Israël est une démocratie. Les gens, tout à l'heure, j'ai vu un débat assez énervé de « Comment pouvez-vous dire qu'Israël est une démocratie au vu de ce qu'ils font ?» En fait, c'est intéressant. En fait, on peut estimer qu'une démocratie se définit par ce qu'elle fait, et en fait, pas vraiment. Une démocratie, c'est « démos », je n'ai pas fait du grec, mais « démos », c'est le peuple en grec, et donc c'est le pouvoir au peuple. Un régime démocratique se caractérise par le fait que c'est le peuple qui choisit ses dirigeants. Voilà. Et en Israël, c'est le cas. En Israël, c'est le cas. Les élections sont libres. Voilà. Et ça, personne ne peut le contester. Après, un gouvernement démocratique, donc issu d'un processus d'élection démocratique, peut tout à fait faire des horreurs. Et ça, c'est autre chose. Démocratique, c'est juste, en fait, l'origine du pouvoir. Plutocratie, plutos, l'argent, c'est le gouvernement des riches. Monarchie, bon, bah, c'est quand c'est inspiré par le pouvoir divin, etc. Aristocratie, etc. Merci, Nilou. Je vous lis tranquillement, plus tranquillement que certains commentaires. Mais je suis habitué, puisque ça fait presque 5 ans que nous parlons quasiment dans chaque revue de presse de la situation au Proche-Orient. Et je m'en réjouis, voilà, que sur Twitch, il puisse y avoir ce genre de fenêtre que d'autres ont également de parler de l'actualité, y compris de ces actualités les plus sombres. Voilà. Ce qui vous donne l'occasion de vous exprimer sur ces sujets. 50 streams, eh oui déjà. D'ailleurs, on ne va pas oublier l'Ukraine, par exemple. Donc, de même qu'on n'oublie pas le Proche-Orient ici, voilà, eh bien, on n'oublie pas l'Ukraine. Un peu oublié, nous dit La Croix ce matin, par les populations occidentales, aussi peut-être aussi un peu dans les médias. Je vous prends La Croix ici, regardez. Ukraine ne jamais relâcher l'attention, c'est l'édito ici de La Croix, et qui nous décrit aussi la situation apocalyptique vue par les Ukrainiens dans certaines régions qui sont la cible quotidienne de bombardements, notamment par les drones. D'abord, moi, j'aimerais lire cet édito, que je trouve très intéressant. Ukraine, donc, ne jamais relâcher l'attention, édito de Lou Besmond de Senneville. Mercredi, cela fera 1190 jours que la Russie a attaqué l'Ukraine à grande échelle. Depuis, pas une nuit sans que parviennent de Kiev, de Kharkiv, de Lviv, de funestes nouvelles, dizaines de morts, bombardements, écoles effondrées, centrales électriques détruites, tant d'autres encore. Notre correspondant Fabrice Depresse le montre bien à Kherson dans le sud du pays, la menace est permanente. Nous ne pouvons qu'imaginer la pression constante subie par les populations civiles, contraintes par exemple de ne jamais s'immobiliser dans la rue pour ne pas être la proie de l'un des drones russes qui survolent la ville. C'est ouf. Depuis 1190 jours, la guerre meurtrière n'a jamais cessé en Ukraine, mais les opinions publiques ont progressivement arrêté de regarder vers l'est de l'Europe. Hein. Récemment, dans une conversation avec des proches, des amis qui ont parlé de l'actualité, est-ce que ça parle beaucoup de l'Ukraine ? Peut-être pas. Lassé, reprise par les scandales ou les luttes politiques internes, comme si nous étions, nous, opinion publique occidentale, habitués à ces morts quotidiens qui, au fond, ne nous concerneraient pas tant que cela. Et pourtant, écrit ce matin Lacroix, à l'heure où Donald Trump est tenté de reculer, on va en parler dans un instant, laissant cette guerre et sa résolution aux seuls Européens, il est urgent de ne pas oublier ce qui se joue à l'est de notre quotidien. De notre continent, pardon. Les Européens ne peuvent se contenter d'attendre que le président des États-Unis prenne une décision. Ils doivent continuer à peser de tout leur poids pour contraindre Vladimir Poutine. Certes, le chancelier allemand Merz a ces derniers jours affirmé sa volonté d'autoriser les Ukrainiens à utiliser des armes à longue portée fournies par l'Allemagne. D'autres sanctions peuvent être prises dans des secteurs comme le gaz naturel, les engrais, autant d'efforts indispensables pour enfin aboutir à une paix juste et durable, comme Léon XIV, donc le pape, l'appelait récemment de ses voeux, et ne jamais oublier l'horreur de la guerre. Je vous lis. Je vais avoir un délai dans le chat parce que je suis parti sur l'Ukraine et sur ce que les Ukrainiens et j'ai beaucoup de messages sur le Proche-Orient. J'ai dû mettre un délai sans faire exprès. Alors d'abord, penchons-nous sur la vue des habitants de Kherson, c'est surréaliste. Alors que les négociations entre Moscou et Kiev sont au point mort, donc ça c'est l'actu, l'armée russe continue de grignoter du terrain en Ukraine. Notre reporter s'est rendu à Kherson, donc grande ville du sud de l'Ukraine. On voit la carte ici. Là. Hop. Là, en bas, vous voyez. En orange, vous avez l'avancée des Russes, la partie de l'Ukraine que la Russie contrôle. Donc, notre reporter s'est rendu à Kherson, grande ville du sud du pays en proie à la terreur permanente des attaques de drones, et sur le plan diplomatique, toute avancée notable reste suspendue aux prises de position d'un Donald Trump plus imprévisible que jamais. Est-ce qu'il va continuer à soutenir Poutine? Est-ce qu'il va mettre le paquet, au contraire, pour aider l'Ukraine? Est-ce qu'il va tout simplement s'en laver les mains et dire « c'est pas ma guerre », il l'a dit récemment, « c'est pas ma guerre », il l'a dit, et se dire « bon, écoutez, je m'en occupe plus », ce qui serait évidemment pas une bonne nouvelle pour les Ukrainiens, on ne sait pas. C'est Trump, on ne sait pas, on va voir. La vie d'abord à Kherson, reportage sous les frappes de drones. Alors je vous lis quelques passages, je ne vais pas tout vous lire, c'est-à-dire dans la croix. Dans le sud de l'Ukraine, sur les bords du fleuve Dniepr, devenu ligne de front, les habitants de Kherson vivent au rythme des attaques de drones russes. Lancées il y a presque un an, l'été dernier, les frappes sur la ville se sont intensifiées il y a quelques semaines. Alors qu'on comptait 76 morts civiles en 2024 dans cette région, le bilan s'élève déjà à 58 morts depuis le début de l'année. Salut Phoenix. On en est à près de 2000 drones russes lancés sur la région la semaine dernière, dont près de la moitié vise Kherson. De plus en plus nombreux, les drones s'enfoncent aussi de plus en plus profondément dans la ville, où ils s'écrasent avec leurs charges explosives, lâchant des grenades ou des mines antipersonnelles. Ces dernières semaines, ces drones russes ont pris pour cible des passants, des voitures, des camions de voirie, des autobus municipaux, une brasserie. Voilà. Une violence dirigée presque exclusivement contre des civils qui défient pour certains l'entendement. On secoue parfois la tête de dépit, incapable d'expliquer, ou on suppose un désir de vengeance contre une ville dont les forces russes ont été expulsées à l'automne 2022. Au drone, il faut ajouter les frappes d'artillerie constantes depuis 2022 sur cette ville et les explosions de bombes planantes, moins fréquentes mais dévastatrices. Elles accélèrent le dépérissement d'une ville qui ne compte plus qu'un quart de sa population d'avant-guerre, laquelle s'élevait alors à 270 000 habitants. L'article décrit un petit peu la façon dont les habitants de Kherson s'organisent au quotidien. Comment ils vivent dans la peur. Et maintenant, le volet diplomatique. Je vous lis. Attendez. Ok. Donc, tandis qu'on se penche sur la guerre de l'Ukraine, je laisse la partie du chat qui a essayé de ne parler que du Proche-Orient. Vous vous parlez entre vous. Donald Trump a l'heure des choix sur la guerre en Ukraine. Pour ceux qui me demandent, comme Spinoza à l'instant, des prises de position sur ce sujet, je vous rappelle que ça fait quasiment 5 ans que je parle du Proche-Orient régulièrement dans ma vue de presse. Vous avez qu'à taper tous les replays. Je ne peux pas faire chaque jour le résumé de tout ce que j'ai pu dire dans le passé sur tous ces sujets. On n'en finirait jamais, on ne parlerait jamais de nouvelles actualités. Notamment sur le fait que, évidemment, c'est Trump qui est décisif dans cette histoire. Le problème, c'est qu'on ne sait absolument pas ce que Trump va faire sur ce dossier ukrainien dans les prochains jours. Le président américain, qui nous explique la croix, agit depuis plusieurs semaines la menace de nouvelles sanctions contre la Russie, dont les bombardements sur l'Ukraine s'intensifient, mais Donald Trump semble avoir du mal à passer aux actes. Donald Trump envisagerait conditionnel de mettre en place de nouvelles sanctions contre la Russie. Ces sanctions dont Poutine se contrefout, je le rappelle. Thiago, merci beaucoup pour ce prêt. Voilà. Mais probablement pas sur le secteur bancaire russe. En fait, il est aussi tout à fait possible qu'il ne fasse rien. On ne sait absolument pas ce qu'il va faire. À l'image du quotidien économique new-yorkais, les médias d'Amérique et d'ailleurs sont dans le flou concernant les intentions du président américain qui a fait part récemment de son mécontentement après d'intenses bombardements russes contre l'Ukraine et l'absence de progrès dans les négociations de paix qu'il a initiées. Il a écrit sur son réseau social « J'ai toujours eu de très bonnes relations avec Vladimir Poutine, oui, on avait vu, mais quelque chose lui est arrivé, il est devenu complètement fou. » Trump vient de comprendre ce qu'essayait de faire Poutine depuis le début, c'est-à-dire d'envahir totalement l'Ukraine. Donc nous, on le sait à peu près depuis le premier jour, mais lui, il l'a appris là, maintenant. Et du coup, il dit « Mais c'est dingue, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il est fou. Oui, Delphine, on peut dire qu'il a été un tout petit peu long à la détente. Enfin, bon, manifestement, il aurait compris. J'ai toujours dit qu'il voulait... J'ai toujours dit qu'il voulait toute l'Ukraine et pas seulement une partie. Et peut-être que cela se révèle juste, mais s'il le fait, cela mènera à la chute de la Russie. En fait, il dit qu'il avait compris depuis le début. En fait. C'est pas très clair. C'est pas très clair. La pensée diplomatique de Trump n'est pas très, très... Très très clair. Voilà. Sans lui faire injure. Souvenez-vous de sa visite très médiatique en Corée du Nord. Voilà, où il a dit qu'il allait, ça allait changer la donne dans la région. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé rien. Il est passé à autre chose. Après. Alors, c'est pas le premier cri du cœur, appelle la croix, de Donald Trump à l'encontre du président russe, Poutine. Le 24 avril dernier, le président américain s'est déjà fondu d'un étonnant Vladimir Stop. Alors c'est étrange qu'on n'y ait pas pensé avant, mais effectivement, ça pouvait se tenter. Peut-être qu'à un moment, ce qu'il fallait dire tout simplement à Vladimir Poutine pour qu'il arrête, c'est de lui dire maintenant stop. Ah. Et donc il l'a fait le 24 avril, après qu'un missile russe ait tué 12 personnes à Kiev. Après tout, tout se tente, hein. Surtout, le président américain a déjà agité sur les mettre en œuvre des menaces plus explicites. Cela me fait penser que peut-être il ne veut pas arrêter la guerre. Quelqu'un pourrait lui expliquer, bordel. Peut-être que Poutine ne veut pas arrêter la guerre. Et qu'il me balade. Peut-être, peut-être. Et alors, il faut s'occuper de lui autrement à travers le secteur bancaire et les sanctions secondaires. Bon, mise en garde, mais qui n'a pas été suivie d'effet. Critique politique, j'ai répondu à cette question hier dans le replay, déjà longuement. Voilà. Si vous n'êtes pas là, quand je dis les choses importantes, encore une fois, je ne peux pas, chaque matin, dire ce que j'ai dit en 5 ans de stream sur des sujets aussi complexes, ça n'est pas possible. C'est le jour sans fin, le film, voilà. Ça, c'est sans fin, quoi. Et pour les habitués, c'est vraiment super chiant, quoi. La dernière déclaration de Donald Trump mettant en cause la santé mentale de Poutine inaugure-t-elle un changement de politique ? De nombreux élus républicains se font entendre ces dernières semaines aux États-Unis. Le sénateur Lindsey Graham en tête pour demander de la fermeté face aux manœuvres, vient un petit article, dilatoire de Poutine qui a multiplié les conditions à la mise en œuvre d'un cessez-le-feu. Le jour de la marmotte, exactement. Mais contrairement à son invective de fin avril, le président américain ne précise pas de domaine sur lequel pourrait éventuellement porter ses sanctions. Surtout, il poursuit en critiquant dans le même souffle le président ukrainien, Zelensky, qui avait déclaré que le silence de l'Amérique et des autres ne fait qu'encourager Poutine. Merci The Max, tu régales. Ouais. Difficile dès lors de dire que cette exaspération trumpesque préfigure une mise sous pression de la Russie, ou, et ça c'est une autre hypothèse, l'abandon, pur et simple, par Trump, du processus de négociation qu'il a initié dans la foulée de son retour à la Maison-Blanche en janvier. Il y a trois scénarios, je vous le disais. Ou Trump reste pro-Poutine, ou Trump décide de soutenir davantage l'Ukraine, ou Trump se barre et s'en lave les mains en disant « c'est pas ma guerre ». Évoqué à la mi-avril par le secrétaire d'État américain, cette possibilité a été de nouveau évoquée par Trump lui-même, prompt à rappeler que la guerre en Ukraine n'est pas sa guerre, mais celle de son prédécesseur Biden, de Poutine et de Zelensky, sans distinction. Kif kif bourrico. Cette option épargnerait à Washington de se réengager plus avant dans ce conflit. Voilà, c'est pas ma guerre, donc pourquoi je m'y engagerais. Et préserverait la possibilité d'un réchauffement des relations avec Moscou que Trump appelle de ses voeux. Les analystes sont nombreux à rappeler qu'un tel scénario. Ne serait pas sans précédent. Lors de son premier mandat, le président américain, je vous en parlais d'ailleurs, s'était désintéressé du jeu diplomatique qu'il avait pourtant initié avec le leader nord-coréen Kim Jong-un, après trois rencontres très commentées, mais sans résultat tangible. Cette fois-ci, un désengagement assumé de la part de l'Amérique pourrait être bien plus lourd de conséquences s'il venait à s'assortir de la fin de toute aide à l'Ukraine, hein, voire de la levée de sanctions contre Moscou. C'est Trump, donc tout est possible. Comme Trump n'a pas de corpus idéologique construit et affiché, hein, il est imprévisiste et opportuniste. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il adapte sa politique en temps réel à plein de choses. On le voit par exemple sur la guerre commerciale, il annonce des sanctions, il voit que les bourses chutent, il revient en arrière, il annonce des délais, et puis réannonce des sanctions, et puis les bourses chutent, et il revient en arrière, il annonce des délais, voilà, c'est trop pragmatique, oui, on peut dire ça comme ça, ouais. Ou alors il sait pas où il va, sinon. Salut Mamawa, ouais, bonne journée à toi. Joli. Je pense qu'il est plus préoccupé effectivement par la Chine que par l'Ukraine. Ouais. Non, Myriam, je suis en train de te lire, c'est pour ça que je prends le temps, je prends le temps. C'est mon petit plaisir, j'aime bien lire le chat. Expédition 33, on va reprendre, ouais, je sais pas encore comment, on va reprendre. Trump est aussi imprévisible que Poutine et déterminé à rouler tout le monde dans la farine. Oui, sans doute, mon boobs. Père Powell, moi je pense plus pragmatique aussi, c'est un ancien businessman, je préfère ça. Oui, toujours businessman, t'inquiète. Je ne suis pas trop pro-Trump non plus, dis-tu. Je préfère ça à des politiques qui restent dans leurs idéaux alors qu'ils savaient très bien que ça ne fonctionnerait pas. Je peux l'entendre. Oui, Trump a conclu effectivement, de facto, un deal avec Zelensky sur les mines ukrainiennes, tout à fait. Mais Trump n'a pas promis en échange de cela une aide massive à l'Ukraine, quoi. C'est juste que du coup, il a juste promis qu'il n'arrêterait pas son aide actuelle, quoi. Là-dessus, on essaye tous les jours, mais parfois le démon du jeu vidéo s'empare de moi et du coup, il y a un peu moins de revues de presse. J'essaie d'en refaire. Idéalement, si j'avais pas d'autres engagements et notamment question pour un champion, effectivement, il y en aurait tous les matins des revues de presse. Non, j'ai pas vu ça, Natoki, c'était pas dans l'édition PDF du Parisien. Mais j'irai voir. Tu penses à une possibilité de troisième guerre mondiale? Est-ce que tu l'imagines? Et si oui, comment me dire Sir Benji? J'avais un article ce matin qui disait ça. Un mec, un chercheur ou un spécialiste de politique étrangère qui disait la troisième guerre mondial est possible. Voilà. Je me le suis pas mis de côté parce que je me suis dit que ça, en termes de morale, ça allait déjà pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura des bonnes nouvelles ce matin à lire? Oui, ça arrive. Néono, j'adore la revue de presse, mais tous les matins, c'est pas toujours évident pour la santé mentale avec les infos terribles de ces derniers mois, c'est pas toujours facile. Mais tu as raison. Tu as raison. Je pense qu'il ne faut pas s'infliger l'actualité tous les jours. Je pense que l'actualité, quand elle est anxiogène, en fait, on n'est pas obligé de se l'infliger tous les jours. Et il faut aussi se préserver de tout ça, quoi. Donc, l'actu, ça peut se consommer une fois par semaine, en vrai. Ou à votre rythme, en fait. Voilà. Bon, moi, ça va, je suis blindé maintenant. Alors, il y a quelques bonnes nouvelles, je vous le disais, dans l'actualité, par exemple, le recul du tabac en France. Ah! Ça, c'est le Figaro qui nous en parle. Regardez. Alors, c'est moins sur les chiffres de vente, forcément biaisé par le fait qu'il y a de plus en plus de gens qui achètent dans les circuits qui ne sont pas les circuits légaux, quoi. Merci Google 35 pour le Prime. Mais vraiment sur le regard des Français, des Françaises, sur le tabac. Fumer est de moins en moins accepté dans la société française, selon deux études des autorités de santé publique. Bon, vous voulez des bonnes nouvelles, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Plus d'un Français sur deux, 53%, estime qu'on est moins bien accepté quand on est fumeur, et deux tiers, 67%, que la société désapprouve le fait de fumer. Étude de Santé publique France parue mardi. Samedi, c'est la journée mondiale sans tabac. Parmi les fumeurs, 9 sur 10... Presque 86% sont d'accord avec cette affirmation. Les personnes qui comptent pour vous pensent que vous ne devriez pas fumer. Des résultats qui suggèrent quoi? Qui suggèrent une réduction des normes sociales favorables au tabagisme. C'est ce que conclut cette étude. Alors, comme le dit Tsetse Tsubasa, qu'il y a quelques décennies encore, c'était bien vu de fumer et même à la mode, j'ai bien connu cela. Entre 2005 et 2022, les perceptions relatives à la dénormalisation du tabagisme se sont diffusées, constate l'Agence nationale dédiée à la santé des Français. Après, ces perceptions varient selon le statut tabagique, si tu es fumeur ou pas fumeur, bien sûr. Voilà. Et les caractéristiques sociodémographiques, parce que selon, ce qu'on, j'aime pas le mot, mais les classes sociales, le regard sur le tabac n'est pas le même. Par exemple, les fumeurs sous-estiment l'idée d'être moins bien acceptés à cause de leur tabagisme par rapport aux non-fumeurs. Des différences sont également observées quant au niveau d'études. Ceux qui ont un diplôme plus faible perçoivent davantage le tabagisme comme socialement acceptable. Et les fumeurs issus de milieux socio-économiques plus favorisés sont plus sensibles aux normes sociales anti-tabac. Merci les modos pour votre travail, je suis désolé. Hein, on me demande beaucoup le retour de la vue de presse, mais je sais que quand c'est le cas, c'est plus du travail pour vous, quoi.
J'ai dû prendre un truc trop fort ce matin parce que j'ai vu quelqu'un qui me posait une question après un dossier Proche-Orient, un dossier Ukraine et un dossier contraint sur le tabac, sur, je crois, le choix de l'incarnation de la dernière petite sirène dans le film d'animation. Vous vous rappelez la polémique là? C'était il y a des mois ça. Il y a quelqu'un qui vient de me faire un pavé là-dessus là. Putain, les gars, c'est chaud là, je peux pas tout faire. Putain, mais c'est pas un distributeur. C'est pas un distributeur de trucs, tu mets une pièce et vas-y, tu. Mais j'ai pris un truc, non? Je pense que j'ai pris un truc. J'ai pris un truc, non? Ou alors je suis en burn-out. C'était il y a longtemps, ça, non? Putain, les gars, tu peux pas mettre 20 centimes d'euros, là, et puis demander d'embrayer sur toutes les polémiques depuis la création de l'humanité, là. Je vais pas y arriver, en vrai. Ouais, je sais pas ce qu'il y a dans mon coca là, mais. Bon, on revient au tabac ou bien? Alors, nouvelle donc, cette dénormalisation du tabagisme se traduit par une baisse parallèle de la prévalence du tabagisme depuis 2005. Se félicite un chargé d'expertise scientifique dans cette unité d'addiction de la direction de la prévention et de la promotion de la santé chez SPF. Imagine la taille de la carte. Les gens ont plus de cartes, mais c'est les cartes de visite là. Oh, il y a un petit sondage, est-ce que tu fumes? Très intéressant. Tabac, hein? Tabac. Imagine, le gars, il est chargé d'expertise scientifique à l'unité addiction de la direction de la prévention et de la promotion de la santé chez SPF. La carte de visite, c'est une feuille A4. Voilà. En tout cas, il se félicite de cette baisse de la prévalence du tabagisme. Résultat, selon lui, de l'efficacité des politiques publiques menées depuis le début des années 2000. Interdiction de fumer dans l'espace public 2007. Moi, je me rappelle quand même de mes débuts en journalisme dans des rédactions enfumées. C'est-à-dire que tu rentrais dans une rédaction, hein, c'était un nuage de tabac. C'est-à-dire que tout le monde fumait, enfin, quasiment, genre 10 clopes, un paquet par jour. T'arrivais, tu fumais pas, ce qui n'était pas mon cas, mais je fumais à l'époque un petit peu. Et c'était le nuage, quoi. Le nuage, c'était fou, quoi. Les cinémas, j'ai connu les cinémas où ça fumait. J'ai connu le putain, bien sûr, le train, bien sûr. Quel enfer, le train. En plus, il y avait les wagons fumeurs, donc il y avait tous les fumeurs dans le wagon. Et c'était vraiment. D'ailleurs, certains fumeurs avaient pris l'habitude de prendre des places en non-fumeurs et aller fumer dans le wagon fumeur, parce que même en tant que fumeur, ils ne supportaient pas la fumée, l'intensité de la fumée dans le wagon fumeur. Il y avait ça. C'est incroyable. Ah ouais, c'était fou ça. Dans l'avion aussi, je crois, non? Dans l'avion, quoi. Donc, interdiction de fumer dans l'espace public, 2007. Programme national de lutte contre le tabagisme, 2014. Campagne du mois sans tabac, 2016. Paquet neutre, 2017. Hausse des prix, 2017-2020, etc. Et l'hosto, bah, je sais pas pour l'hosto, je sais pas. Ouais. Dans les maternités, tu crois? Waouh. Et cette baisse se poursuit depuis toutes ces dernières années. Une enquête de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, lundi, a montré que 23% des 18-75 ans étaient des fumeurs quotidiens. Ah, j'ai loupé le sondage. Ça donnait quoi, le sondage? Je l'ai pas lu. Voilà les résultats. Alors, est-ce que tu fumes? Non, 81%. Ok, je l'ai. Ok. Est-ce que tu fumes? Oui, 19%. Ah! Avec des petites émotes de poumons et de cigarettes, ça bosse, hein, les modos. Bravo. Bravo, bravo. C'est impressionnant. Donc, l'enquête dit que 23% des 18-75 ans étaient des fumeurs quotidiens en 2023, contre 25% en 2021, et c'est la proportion de fumeurs quotidiens la plus basse depuis les années 90. Voilà. L'enquête publiée en partenariat avec l'SPF souligne toutefois, là encore, la persistance des inégalités sociales. Merci Candisaurus, merci Panziliona, merci à tous les deux. Puisque la consommation quotidienne de tabac reste plus élevée chez les personnes sans diplôme ou avec un diplôme inférieur au baccalauréat, 29% de fumeurs, que celles déclarant un diplôme supérieur au baccalauréat, 17% seulement. Et écart de 13 points entre les personnes déclarant des revenus inférieurs à 1160 euros et ceux dont le revenu est supérieur à 2150 euros. 30% de fumeurs, 17% de fumeurs. Enfin, les hommes restent plus fumeurs quotidiens que les femmes, 25% versus 21%, même si je crois que les femmes ont beaucoup rattrapé les hommes hein, par rapport à avant. Donc, baisse du tabagisme, qui va de pair avec une augmentation du vapotage. Voilà, Morgotte écrit, le sondage et l'article ne prennent pas en compte la vapoteuse, alors que ça fait fureur chez les plus jeunes. Si tu avais une bonne vue, voilà, et ben tu l'aurais vu dans l'article, parce que c'est sous tes yeux depuis tout à l'heure. Regarde, c'est écrit là. J'adore. Cette baisse du tabagisme va de pair avec une augmentation du vapotage. La proportion d'adultes ayant déjà vapoté au cours de leur vie a presque doublé en 9 ans. 26% en 2014, 42% en 2023. Aujourd'hui, il concerne 8% des 18-75 ans. La cigarette électronique qui n'a toutefois pas remplacé la cigarette classique. Certains l'utilisent comme moyen d'arrêter le tabac. D'autres parce que ça reste moins cher qu'un paquet de 10 euros. Mais, dit Olivier Le Nézet, co-auteur de l'étude, cela reste, donc la vape, un produit addictogène et non de substitution. Merci Cassirix. On ne peut dire si c'est une porte de sortie du tabac ou d'entrée. Et je pense que c'est les deux. Pour certains, c'est une porte de sortie, mais le côté un peu addictif de la vape, et notamment quand elle... Quand la vape intègre de la nicotine, ça peut être aussi chez les plus jeunes une porte d'entrée. Voilà. Donc le statut un peu particulier de la vape. Ces résultats sont néanmoins nuancés. Moi j'aime bien quand il y a des nuances. Plus d'un quart des Français pensent que fumer permet. Ah oui, c'est le côté un peu créateur de liens du tabac. Plus d'un quart des Français pensent que le fumer permet d'aborder plus facilement un inconnu, 29%. Permet d'être plus à l'aise dans le groupe, 27%. Le pourcentage de personnes d'accord avec cette dernière assertion a même augmenté depuis 2017. Cette tendance pourrait être due au moins en partie à l'isolement généré par l'épidémie de Covid. La cigarette pourrait davantage apparaître comme un outil de socialisation dans un contact de retrouvailles. Viens, on va fumer la clope. T'as pas une clope. Bon. Un phénomène particulièrement marqué chez les jeunes générations, la cigarette est souvent perçue comme un vecteur de création du lien social. En effet, 29% des 18-34 ans pensent que fumer permet d'être plus à l'aise dans le groupe. Ça te donne une contenance, ça te donne du... Voilà. Et 41% de cette même tranche d'âge, donc on parle des jeunes, que fumer permet d'aborder plus facilement un inconnu. C'est-à-dire... Pourquoi ? Alors Cyril dit c'est l'inverse. Le côté créateur de liens du tabac, ça n'existe plus. Au contraire, maintenant, quand je fais ma pause club, je suis souvent tout seul, alors qu'avant, on était plusieurs. T'as pas un feu ? C'est une vraie expression de jeune, ça ? T'as pas un feu ? T'as pas un feu ? On dit ça ? Sarah, deux points, ouvre les guillemets. Excuse-moi, t'as pas du feu ? Non, parce que je me sens tout feu, tout flamme devant toi. Sarah, t'as vraiment abordé quelqu'un en disant ça ? Un feu, on dit ? Truc de jeune, ça. T'as pas une garo, frérot ? Bravo, Alexandra. T'as pas du feu, non, à part celui que j'ai au cul. Marche très bien aussi, me dit Jules. Ok. D'accord. Je pense que je ne fréquente pas assez de jeunes, moi. Envoie une garbiche, le sang. Ok. Ok. T'as pas une cibiche, c'est vieux ça, non? Une chmer? Un zbouf? Hein? Une guinze? Une guinze? Une tige, c'est vieux ça. J'adore. Fais péter la gauloise, ça c'est vieux ça. Paye ta garo. Merci Loup. J'en ai déjà parlé ici, ça n'est pas pour attirer l'attention, mais j'étais fumeur 4 cigarettes par jour et 3 PETARD. Et cancer des poumons depuis 2 ans maintenant, ne fumez pas. Mon pétard, quoi. Le cancer n'arrive pas qu'aux autres. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos proches, avec tout mon amour, courage. Merci à toi. C'est quoi une guinze ? Si un des enfants commence à fumer ado, tu lui dirais quoi ? Bah on aura une discussion, je lui expliquerai de façon la plus rationnelle possible, la plus convaincante possible, pourquoi c'est une très mauvaise idée. Voilà, je ferai appel à son intelligence, voilà, parce que quelque chose de bien compris peut être un moteur très puissant pour régler sa vie. Voilà. Oui, j'ai fumé un peu quand j'étais jeune. Et donc, les gens qui regardent ces études poursuivent leur analyse. Malgré une diminution de cette prévalence du tabagisme, une partie de la population continue de le percevoir comme un comportement socialement acceptable, en particulier les jeunes, soulignant ainsi la nécessité de poursuivre et d'adapter les efforts de dénormalisation du tabac. Plus encourageant, la baisse importante du tabagisme chez les adolescents ces dernières années commence à s'observer parmi les jeunes adultes, dont le niveau de tabagisme quotidien est plus faible, donc les 23%, les 18-24 ans, 23%, que celui des 25-34 ans, 29%. Ce recul de l'initiation du tabac et de l'usage en population adolescente laisse présager une poursuite de la baisse de la consommation à moyen terme. Encore une bonne nouvelle. Est-ce qu'on se dirige vers une génération sans tabac ? On pourrait aussi avoir un décalage de l'initiation dans le temps. Les premières consommations pourraient avoir lieu plus tard. Il n'empêche que cette baisse du tabagisme à l'adolescence, on la retrouve chez les jeunes adultes depuis une dizaine d'années. Seules de prochaines enquêtes permettront de confirmer ou non cette évolution favorable. On me dit souvent, mais Samuel, t'as pas des bonnes nouvelles. Je pense que nous avons une bonne nouvelle ici, dans la revue de presse ce matin. Le tabagisme est en train de diminuer en France. Voilà. Ah, ça, après, ça peut s'arrêter. Est-ce que la rumeur qui dit que si on arrête avant 30 ans, il n'y a pas de conséquences, c'est vrai ? Alors, je ne suis pas médecin, monsieur Gollum, mais c'est une bonne question, mais je n'ai pas la réponse. Bah, le problème de la clope aussi, c'est que quand tu ne fumes plus, tu as l'impression qu'on t'enlève quelque chose de toi, disait Max. Bah, mets-toi autre chose en bouche, je ne sais pas moi. Quoi ? Bah oui, je ne sais pas. Une sucette ou des petits bonbons. World of Warcraft m'a aidé à arrêter de fumer, dit Ludwig. Voilà. Est-ce que le jeu vidéo. Tiens. Eh, c'est vrai? Attendez, les amis. Franchement. Quand t'es un vrai joueur, tu vois, un peu impliqué sur une game, exemple de Valo, quoi, hein, que ça clique, tu vois, que t'as besoin littéralement de tes deux mains. Hein ? Clavier souris. Ok. On est d'accord que un vrai joueur de Valo à 100%, il peut pas fumer. Il peut pas fumer. Quand ? Hein ? On est d'accord. Au contraire, je fume entre les rounds. Oh non ! On fait des pauses ? Non ! Pourquoi j'ai arrêté de fumer ? Parce que Hélène ne fumait pas. Bah, quand tu tombes amoureux de quelqu'un qui partage ton quotidien, qui ne fume pas, et que. Bah, du coup, tu t'arrêtes naturellement, quoi. J'ai arrêté comme ça. Merci. Merci encore, Kenzisaurus. T'as arrêté facilement ? Oui, ça allait. Bon, j'étais pas un gros fumeur, j'ai dû monter à 10 clopes par jour. Non, ça allait. Après, je suis un peu. Quand j'ai décidé un truc, moi, c'est mon côté têtu, un peu con-con, quoi. Je suis très lent à me décider. Parfois, je peux mettre. Ouais, 10 clopes par jour. Ouais. Max, ouais. Je suis très très loin à me décider, je suis très très loin à prendre des décisions, mais alors après, quand je décide un truc, je le fais. Bêtement, quoi. Voilà. Stunt renifleur de paix. Les Français achètent de plus en plus de tabac à l'étranger aux contrebandes, ça doit diminuer les ventes françaises qui nous donnent les chiffres de la consommation. Donc c'est exactement ce que je vous expliquais. Cet article ne porte pas sur les chiffres d'achat de tabac, mais sur les sondages auprès des Français sur le fait qu'ils fument ou pas. Donc ça n'a rien à voir avec la vente, dont les chiffres, je l'ai déjà dit deux fois, donc je le dis une troisième fois, sont faussés par les achats à l'étranger ou de contrebande, mais bien sûr des enquêtes auprès des Français, est-ce que vous fumez, est-ce que vous fumez pas, etc., etc. Donc je le redis.
Je le redis. Encore une fois. Est-ce que cette fois, vous avez bien écouté? Voulez-vous que je répète? Une quatrième fois. Interrogation.
Voilà. J'adore ce petit truc-là. Tu as décidé d'être radiant sur Valorant, paf, tu le sauras un jour. Ah non, ça, non, ça, non. Ça, j'ai décidé. Ouais, ça. En fait, Oui, non. Non. Ça, non, ça, j'y arrive pas, ça. Nilou. J'ai un oncle à peine plus vieux de 2 ans que mon père. Il a tellement fumé qu'il a l'air plus vieux que mon grand-père. Aussi, dans ma famille, c'est mon père et ses frères qui allumaient les cigares de mon grand-père assis sur ses genoux. Il y a eu énormément de conscience sociale et culturelle, donc franchement, génération sont en bas, sans tabac, j'en rêve et j'y crois. Ouais, 10 cigarettes par jour, ouais. À l'époque, c'était peu par rapport aux gens avec qui je traînais, quoi. Je suis content d'avoir arrêté. Hein. Puis il y a eu le sport aussi, quand je me suis mis beaucoup au sport aussi. J'ai arrêté de fumer pendant 2 ans, j'ai repris pendant le confinement, depuis j'arrive pas à stopper de nouveau. Il faut mon ami, il faut mon ami. C'était quoi le coût d'un paquet dans ma jeunesse? Quand j'ai commencé à fumer, ça coûtait 8 francs à peu près. Je me rappelle de ça. 8 francs, donc ça fait combien ça, 8 francs en euros? Ça fait pas beaucoup, hein? 1,20 €? Ouais, ça a combien maintenant? Ouais. C'est 10 balles, non? 10 euros, non? Ouais. 8 francs, un peu moins même. Mais voilà, on va dire, quand moi je fumais, c'était fin des années 80, c'était 8 balles. 8 francs, ouais. Et tu gagnais combien? Bah rien, j'avais 15 ans, si tu veux, donc je gagnais pas trop. Et après, je me rappelle du passage à 10 balles, à 10 francs. Donc 1 euro des brouettes. Et on s'est dit à l'époque, voilà, tout le monde va arrêter de fumer, quoi. Bon, maintenant, c'est 10 euros, je crois, non, c'est ça? 12 euros, maintenant? Ouais. Ouais. En 1925? Non, en 1492, c'était. En fait, j'ai appris à fumer avec les Amérindiens. Ouais, dans les années 80, c'était à 6-7 francs le paquet. Ouais, au milieu des années 80. Puis à la fin des années 80, c'est passé à 8. Puis après, ça a été 10 balles. Voilà, 10 francs, ouais. Et puis encore moins cher quand t'achetais ça quand tu prenais l'avion et tout là. Tu ramenais pour les copains. T'as toujours un copain qui dit, oh, c'était le, enfin, je sais pas si ça a changé ça. Tu partais prendre l'avion, t'as toujours un copain qui dit, ah, tu peux me ramener une cartouche? C'est ouf. Hein. Bon, voilà pour la bonne nouvelle de ce matin. Ok. Ça va, on est bien. Tu fumais avant ou après la chasse au mammouth? Pendant. Moi, j'étais un chasseur-cueilleur, mais assez cool, assez chill, moi. Souvent, quand je surmontais le mammouth, parce que j'avais une technique de chasse du mammouth qui était assez rock'n'roll, j'avoue. En fait, je sautais sur l'encolure du mammouth en me projetant d'un arbre ou d'un rocher élevé, voilà. Et je lui faisais sa petite affaire voilà, directement dans cette position. Là, je le tranchais de partout, là. Et j'avais souvent une clope au bec. Voilà. C'est vrai, bien sûr, c'est vrai. Bien sûr. Voilà. Nonchalant, quoi. Tu vois, le regard froid, le trocar cuir roulé autour du bras. Voilà. Survêtement taquini, les mocassins Nebuloni. Voilà. J'étais chill. J'étais chill. Ouais. Badass, exactement, c'était moi ça. Toujours d'ailleurs. C'est moi l'extinction des mammouths. En partie, oui. Ouais. Oui, pas de pacotille à l'époque, effectivement. On n'avait pas des chaînes en or qui brillent. Non, non, non. À vous, tu es Highlander. Je ne commenterai pas cette information.
Il. Non.
Il. Il ne doit en rester qu'un.
Je ne commenterai pas cette information. Le tabac est maintenant... Faut-il... le débat intéressant. Faut-il interdire les réseaux sociaux avant 15 ans? En v'là un débat qu'il est bon. Merci l'humanité, bande de beaux gosses. Let's go. Le journal qui n'est où? Ouais. Après, on parlera d'Anne-Sophie Lapix. On lui a dit, c'est fini le JT. Quelqu'un lui a dit. Voilà. Faut-il interdire les réseaux sociaux avant 15 ans? La France souhaite restreindre l'accès à ces plateformes numériques de partage de contenu pour les plus jeunes. Des discussions ont lieu actuellement avec les principaux acteurs en vue d'un accord au niveau européen. Alors, Luma, bravo les gars, donne la parole aux deux camps. Oui, il faut interdire, non, faut pas interdire. Let's go. À gauche, vous avez Sylvie Dieu Osica et Eric Osica qui sont pédiatres, membres du collectif sur exposition des écrans. Ils disent il faut interdire avant 15 ans. Voilà. Et vous avez un docteur en psychologie, Evan Direct, qui dit non, faut pas interdire, faut accompagner. Let's go. Lisons d'abord les partisans de l'interdiction, si vous voulez. C'est intéressant. Dans un travail de consensus international inédit publié en 2024, plus de 120 chercheurs issus de 11 disciplines se sont accordés sur ce constat alarmant. La santé mentale des ados a décliné. Et oui, au cours des deux dernières décennies, notamment dans les pays occidentaux. Une majorité écrasante d'experts estime que l'usage intensif des smartphones et réseaux sociaux peut provoquer des troubles du sommeil, de l'attention, voire des formes d'addiction comportementale en raison chez les jeunes, notamment chez les jeunes filles, exposées à des contenus déstabilisants ou sexualisés. Dans une étude parue en 2022, Amy Urban montre une vulnérabilité particulière des filles entre 11 et 13 ans aux effets des réseaux, période critique où l'usage est associé à une chute du bien-être. On se cherche, on se construit intellectuellement, psychologiquement, on cherche des repères, des normes. Et peut-être que les repères, que les normes envoyées par ces réseaux sociaux ne sont pas forcément les meilleurs. Ouais, si vous voyez ce que je veux dire. Ce double constat invite à s'interroger jusqu'à quel âge faut-il protéger les enfants d'une exposition aux réseaux sociaux. Moi, je trouve ça très intéressant. Le problème ne réside pas seulement dans la quantité de temps passé en ligne. Les algorithmes de recommandation comme celui de TikTok jouent un rôle majeur dans l'exposition répétée à des contenus anxiogènes. C'est marrant TikTok, d'ailleurs. Parfois, je regarde un truc et après, hop, le truc me propose plein de trucs. Tiens, sur TikTok, il y a des trucs trop dégueux, là. Sur TikTok, il y a des vidéos de gens qui percent des points noirs, de gens qui percent des boutons. Ah putain! Un jour, je suis tombé sur ça. Hein? Et tu vois, je suis resté. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis resté. Putain, TikTok, après, il n'arrêtait plus de me proposer que des trucs comme ça. Ah, quel enfer! Ah, des gros, des petits, des noirs, des blancs. Ah putain! Quel enfer! Voilà, algorithme. Une enquête d'Amnesty International 2023 révèle que TikTok pousse certaines adolescentes vers des vidéos dépressives ou inquiétantes, renforçant leur mal-être par effet de boucle algorithmique. Sans transparence ni régulation, ces systèmes optimisent l'addiction au mépris de la fragilité psychologique des plus jeunes. C'est vrai tout ça, hein. Le Digital Service Act, le DSA, dispositif européen de régulation, incarne quoi ? Incarne une avancée majeure en imposant aux plateformes des obligations spécifiques pour protéger les mineurs. Étrange dans l'algorithme, ça. Attends, je ne vous ai pas dit ce qu'il y avait dans le reste de mon algorithme. Je ne vous dis pas tout. Je ne vous dis pas ce que TikTok me propose. C'est vraiment toujours un peu les mêmes contenus. Je dis ça, je dis rien. Family, beer, travel. Merci les voyageurs. On a une famille qui voyage là, derrière cette chaîne Twitch qui vient de nous raid. Merci beaucoup les amis, merci, c'est super. Vous êtes où là actuellement? Voilà. Donc je ne vous parlerai pas de mon contenu TikTok. Je vous préserve de ça. Donc le DSA, avancée majeure en imposant aux plateformes des obligations spécifiques pour protéger les mineurs, mais il repose encore largement sur l'autorégulation, ce qui implique d'une part que les plateformes soient de bonne volonté, d'autre part que nous ayons du temps. Or, ce n'est le cas ni pour l'un, la bonne volonté des plateformes, ni pour l'autre, que nous ayons du temps. Selon une fondation qui s'appelle Five Rights, récemment, les mesures mises en place, notamment par Instagram, restent largement insuffisantes. Publicité masquée, exposition à du contenu sexualisé, contact risqué, algorithme toujours très addictif. Sans contrôle extérieur contraignant, les promesses de sécurité restent illusoires. Ils sont à Sevran en ce moment ? Trop bien. Il n'est plus possible d'attendre pour protéger les plus jeunes, disent ces deux spécialistes. Face à l'inaction persistante des plateformes et à l'inefficacité de l'autorégulation, une interdiction temporaire d'accès aux réseaux sociaux avant 15 ans, tant que ces derniers ne sont pas pleinement conformes au DSA, semble être la moins mauvaise des mesures. Reposant sur un principe de précaution, elle serait proportionnée au regard des risques identifiés, ne constituerait en rien une atteinte aux droits fondamentaux des enfants. Au contraire, elle viserait à garantir leur droit à grandir dans un environnement numérique sûr. Je vous lis. Adapté à leur âge et respectueux de leur développement. Je suis assez sensible à ces arguments, moi, pour l'instant. Après, je vais lire les arguments en face, quoi. Voilà. Est-ce que tu as mis des règles relatives aux écrans pour les enfants? Oui. Parce que moi, c'est très encadré. C'est des petits gamers, c'est des petits geeks, mais c'est encadré, quoi. Hein, le jeu vidéo, c'est leur passion, mais c'est très encadré. Alors, évidemment, ils ont 5 et 8 ans, nos réseaux sociaux, quoi, pour l'instant. Merci, Antoine. Merci encore à la famille Libir. Merci, Antoine, pour le soutien. C'est quoi du tout, une heure par jour? Ah non, c'est moins que ça. Attends, ils ont 5 et 8 ans, les gars. Ah non. Ah, c'est beaucoup moins que ça. Non, chez nous, le jeu vidéo, c'est le vendredi soir. Le vendredi soir, ils ont le droit de jouer aux vidéos. C'est le soir à jeu vidéo, en famille idéalement. Voilà, trois, on joue avec le papa, on joue avec la maman. Et puis, exceptionnellement, en semaine, quand il y a vraiment eu, ils ont été super gentils, ils ont super bien travaillé à l'école, voilà. Là, il peut y avoir... un petit 10 minutes pour faire plaisir, voilà. Basta, quoi. Basta. Ah, j'oublie, les transports. Quand on prend le train, quand on prend l'avion, ça n'arrive pas tous les jours, ils ont le droit pendant la durée du trajet. Sinon, ils sont bêtes. Les vacances, non, les vacances, on ne change pas les règles. Non, il n'y a pas plus d'écran parce que c'est les vacances. Ouais. Tu leur donnes un temps sur les réseaux, genre YouTube, ils n'ont pas accès à aucun réseau et à aucune plateforme. Ils ont accès à leurs jeux vidéo, ils ont accès à WhatsApp pour envoyer des petits bonjours à la famille. That's it. Et c'est déjà beaucoup. En voiture, ils ont le droit? On roule pas en voiture, non. Ouais. De toute façon, non, parce qu'ils seraient malades. Et puis, ils n'ont pas YouTube. Ah non, ils sont trop petits. Ah non, 5 et 8 ans, YouTube, tu sais pas où ils peuvent débarquer. Non. Voilà. Et puis Hélène a installé tout ce qu'il fallait sur la tablette pour bien surveiller, encadrer, éventuellement déconnecter à distance. Enfin, la tutti quanti, quoi. La Nintendo DS sous la couette. Non, la Nintendo, elle est dans un endroit très précis dans la maison. Et elle bouge pas. Voilà. Et donc, non, c'est possible. Non, c'est pour leur bien. Hein. C'est pour leur bien. Hein. J'ai deux petits-enfants qui lisent beaucoup. Alors l'aîné, il dévore les livres. Le petit, il regarde les images pour l'instant, il fait comme son frère, mais il est très intéressé par l'objet, le livre aussi. Et je veux pas les détourner de ça avec trop d'écran, quoi. Merci, Malo. Merci. Ils jouent à quoi? Qu'est-ce qu'ils aiment, là? Plein de jeux. Le grand, il joue à Minecraft, il joue à... Le truc avec de la peinture, là. Je sais pas quoi, là. Le FPS, un peu de la peinture, là. C'est mignon. Voilà, et puis ils sont à fond sur Brawl Stars. Splatoon. Et puis ils sont à fond sur Brawl Stars, que je trouve un peu trop addictif. Voilà. Et puis un peu de. En famille, on fait du Mario Kart, quoi. Quel jeu n'est pas addictif? Ah bah, la capacité à rendre addictif d'un jeu, elle peut énormément varier d'un jeu à l'autre. Ah bah non, Parlo, tu peux pas dire tous les jeux sont addictifs de la même manière. Il y a même des jeux qui sont tellement nuls qu'ils sont pas du tout addictifs. Non, il y en a qui sont pensés pour créer un état de manque permanent par un système de récompense, qu'il faut y revenir tous les jours, sinon tu rates. Voilà, de progrès, de nouveaux persos. Je rappelle que beaucoup de studios de jeux vidéo fonctionnent avec des spécialistes des sciences cognitives pour justement créer l'addiction. Alors ça, c'est mal connaître c'est l'univers du jeu vidéo pour penser que tous les jeux vidéo ont la même capacité à rendre accro, quoi. Pas du tout. Voilà, le FOMO. Fear of missing... c'est quoi déjà, FOMO? Fear of missing... Missing out. Tu vois. Non. Donc, moi, cet attrait qu'ils ont pour les écrans et pour le jeu vidéo, je veux pas les mettre hors du monde et de la société. C'est aussi un créateur de liens entre les deux frères et avec leurs petits copains et avec les parents, parce que c'est des sujets de discussion. Mais c'est accompagné, c'est encadré. On fait attention, quoi. On fait pas n'importe quoi. Maintenant, donnons la parole à quelqu'un qui dit non, c'est pas la solution d'interdire les RS. Les réseaux sociaux moins de 15 ans, c'est Evan Girek, qui est doctorant en psychologie, et il dit l'interdiction. Ne produit rien d'autre que des effets nocifs. La solution réside notamment dans l'accompagnement de l'usage du numérique. La commission d'experts qui recommande l'interdiction des écrans aux moins de 15 ans avance parmi les raisons principales, conséquences neurodéveloppementales néfastes, déficit de sommeil, cyberharcèlement, risque chez les enfants ou ados les plus vulnérables, on vient de l'évoquer, l'interdiction viendrait alors comme une solution visant à protéger cette catégorie de la population. Malgré l'attractivité qu'elle présente, cette proposition comporte plusieurs limites, estime ce monsieur. Elle donne l'impression de résoudre le problème alors qu'elle élude la question essentielle, comment accompagner les jeunes dans leur usage du numérique. Ce sont les compétences numériques critiques et émotionnelles qui permettent de naviguer sainement sur les réseaux, pas l'absence d'accès. Les réseaux sont au cœur des interactions sociales adolescentes. Bien utilisés, ils offrent des bénéfices non négligeables. Les interdire, c'est en priver les jeunes ou tout simplement les retarder pour leur bien. En retardant l'exposition aux réseaux, on retarde aussi le développement de l'autonomie, du sens critique, de la gestion des émotions face au contenu, aux interactions. Ouais, je sais pas. Pour l'instant, je suis pas. Cela peut rendre l'entrée dans le numérique plus brutale, plus risquée, moins encadrée. Les interdictions strictes sont facilement contournées par les jeunes les plus débrouillards, les exposant sans encadrement. Ah ouais, je vois ce qu'il veut dire. À des environnements peu sécurisés, tandis que les autres risquent isolement et marginalisation par rapport aux petits copains. Cela creuse des inégalités d'accès aux compétences numériques et pousse certains vers des plateformes encore moins régulées. Ils vont dans le darknet, quoi. Dans le dark web. Ils vont acheter des guns, en fait, c'est ça qu'il nous dit, le gars. Et de la drogue. Et monter des cas, c'est des opérations d'évasion, quoi. Un petit peu. Augmentant les risques de préjudice et favorisant une double vie numérique possède. Oui, quand t'as 12 ans et t'es braqueur la nuit et colis le jour, oui, forcément t'es une espèce de double vie, quoi. De manière plus générale, cela risque également d'isoler davantage les jeunes déjà marginalisés des systèmes de soutien et de la communauté, tout en faisant reculer les droits et libertés des jeunes. L'usage des réseaux sociaux et des outils numériques se façonne au gré des expériences avec l'âge, en interaction avec de nombreux autres facteurs. Penser qu'une simple interdiction à une certaine catégorie de la population est une solution pour limiter les conséquences néfastes et protéger les plus vulnérables, est au mieux illusoire, au pire une bêtise. Okay. Les retours d'expérience comme d'autres pays, Corée du Sud, Grande-Bretagne, démontrent l'inefficacité des restrictions. Les solutions sont ailleurs, ainsi que le recommande d'ailleurs le rapport de la commission d'experts, blablabla, blablabla. Il s'agit notamment de préparer les jeunes à leur autonomie sur les écrans, de leur donner le pouvoir d'agir, de mieux outiller, de mieux former au numérique, tout en accompagnant les parents, les enseignants, les éducateurs, ceux qui interviennent pour les enfants. Il semble plus que nécessaire de renforcer le déploiement de solutions pour éduquer et développer les compétences en littératie numérique, plus particulièrement sur les réseaux. Je sais pas. Je suis peut-être un peu vieux con là-dessus. Néono dit, ouais, à partir de 12-13 ans, c'est OK. C'est pas un peu trop, non? Je sais pas. Je sais pas. Et puis, il est de voir, bordel. Hein, ça rentre à la maison, ça a le téléphone, ça part directement sur les réseaux pour échanger avec les copains. Et les devoirs de français, de maths, d'histoire, d'anglais, là, pour demain. Hein? C'est quand qu'on fait ça? Non? Moi, je dis 15 ans, c'est OK. Hein. Le devoir, c'est interdit de devoir à la maison? Bah, je pensais aussi, bah, manifestement, pas trop. Hein. Ouais. Moi aussi, je pensais, ouais. Il y a encore les devoirs à la maison, c'est une honte d'ailleurs. C'est une honte. Putain, les pauvres gosses, quoi. Ça rentre, pff, c'est ouf. Je suis complètement d'accord. Pourquoi c'est une honte? Parce qu'ils ont déjà passé 7 ou 8 heures en classe dans la journée, qu'ils ont déjà bossé, et que c'est déjà une journée assez longue pour les enfants, et que l'enfance, ça peut être aussi un temps de l'innocence et de l'insouciance. Et du rêve, et que franchement, ça va, ils ont... si l'école était bien faite, les 7 heures de cours dans la journée, là, ou quasiment, ça devrait suffire. Hein. Voilà. Franchement, non. Franchement, non. Quand vous rentrez du boulot, vous, la plupart d'entre vous, les salariés, c'est over, c'est terminé. Hein. D'ailleurs, ok, j'ai fait mes 7 heures de taf, je rentre, ça va, hein. Hein, ok. C'est à peu près la règle, pour la plupart des salariés, on va dire. Voilà. Et les enfants, non. Non, les enfants non. Les enfants, on trouve normal qu'ils se tapent 2 heures, 3 heures, 4 heures de devoir tous les jours. Hein. Non, franchement, non. Moi, je pense que il ne devrait pas y avoir de devoir jusqu'à au moins la 6e, quoi. On peut rentrer le soir, dit Quentin, qui bosse dans un studio de jeux vidéo. Ça va, le travail n'est pas l'alpha et l'oméga d'une vie, hein. Hein? Il y a d'autres choses dans la vie. En vrai, une petite demi-heure de devoir à faire avec les parents, ça peut être cool pour partager un moment et voir le niveau. C'est vrai que pour les enfants et les parents, c'est vrai que c'est un grand moment de partage, les devoirs. C'est toujours très apprécié des deux côtés. Ce que tu dis est vrai. Hein, la joie. Moi, je vois la lumière, la joie qui s'allume dans les regards de mon grand quand on lui dit que c'est l'heure de faire les devoirs. C'est vrai qu'il y a ce moment de félicité, de joie commune. Et c'est vrai que nous aussi, on adore faire ça. C'est vraiment un truc, vraiment, c'est un truc qu'on se dit « Ah, cool, la journée de boulot est terminée, je vais enfin pouvoir faire les devoirs avec les enfants. » Mais ouais, quand j'y pense. J'ai toujours... Là, je ne pense qu'à ça, là. Là, c'est mercredi, c'est pour une raison. Ce soir, ça va être devoir. Moi, j'ai hâte qu'on soit à 17-18h, là. Arrête ton goûter, c'est l'heure des devoirs. Ça, c'est vrai que c'est un truc que j'attends avec impatience tous les jours. Et mon enfant aussi. Hein. Oui. Un enfant ne peut pas donner à ses élèves un travail écrit à faire en dehors de la classe. Les devoirs à faire à la maison peuvent être un travail oral, lecture, recherche, par exemple, des leçons à apprendre. Ah oui, c'est ça, ouais. Oui, c'est ça, ouais. Bah, du coup, il y a quand même des devoirs, quoi. Quel enfer. Sans compter que ça crée des inégalités sociales, parce que toutes les familles ne sont pas égales sur la question des devoirs. Il y a des familles où quand les enfants sont à l'heure des devoirs, les parents ne sont pas rentrés. Voilà. Il y a des familles où les parents n'ont pas forcément le bagage pour accompagner au mieux leurs enfants sur leurs devoirs. Alors que dans la journée, ils ont reçu a priori le même cours. Bah, le soir, c'est aussi le travail. Je trouve que beaucoup de devoirs le soir, c'est aussi un vecteur d'inégalité sociale. Et donc ça me dit, c'est pour ça que la recommandation officielle, c'est de donner des devoirs réalisables en autonomie. Voilà. Après, Malo, il est incroyable. Malo, il se gère. Malo, mon grand, 8 ans, là, il fait ses devoirs. Hélène, elle a dit, c'est ses devoirs, il faut qu'il les fasse. C'est fou, ça. C'est fou, ça. Et il le fait. Et donc, pour le coup, c'est plus une vérification des devoirs que le fait. Voilà, c'est incroyable. Ça, putain, à 8 ans, je n'étais pas autonome comme ça, moi. C'est ouf. Alors ça, j'espère que le petit frère sera comme ça. C'est folie, quoi. Il fait ses devoirs. Et il est fait vraiment. Et il est fait bien en plus. C'est fou. J'étais pas comme ça, moi. C'est incroyable. Ah, parce que du coup, on vérifie quand même. Et c'est propre, c'est carré, quoi. Alors là, je sais pas d'où ça vient. Hein. Quand on les regarde avec Hélène, on se dit, mais de qui ils ont pris, quoi. Et on se regarde, et pas de toi, pas de moi. Putain, on sait pas, c'est pas d'où ça vient. Je sais pas, ça va être des grands-parents il y a longtemps, je sais pas. C'est ouf. Incroyable. Le facteur, mais quel facteur? Le facteur éducation, le facteur culturel, le facteur socio-économique, quel facteur? Le facteur. Le facteur. Lequel? Comment ça, celui de la poste? Vous êtes con. Ah là là là. Allez, on va terminer avec quoi? C'est terminé, non? Non? Ah non! Ah non, il reste deux trucs. Quelle heure il reste un petit peu de temps, ça va. Ok, il reste deux trucs intéressants. Il reste le petit coup de gueule de Papy Sam sur les établissements touristiques qui refusent les enfants. Bon, ça, c'est mon... Ça, je gueule, ça. Ça, moi, je... Là. Et le gouvernement s'en... Enfin, les autorités publiques s'en soucient aussi. Et ça, je trouve ça bien. Voilà, moi, là, je sais qu'on vous êtes pas tous d'accord avec moi. Moi, je pense que les enfants, il faut les accepter dans tous les endroits de la société. Voilà, il faut les intégrer, les inclure, voilà. Donc on va en parler dans un instant. Et puis après, je vous parlerai de Anne-Sophie Lapix qui est débarquée du 20h de France 2, de façon un peu brutale, enfin, en tout cas pas souhaitée. Il y a deux pages dans Le Parisien. Je dis je vais au futur parce que on va faire une petite pause pipi là. Je n'en peux plus. Hein. Une petite. Merci Messia pour le soutien. Merci Tidra Oxalis pour le 46e mois. Merci Malo. Ça arrive de fourcher. Voilà, ça arrive. Hein. Un petit pipi. Voilà. C'est dingue ça. Ça arrive. Ça arrive à tout. Ça arrive même au meilleur. Voilà. C'est quoi, je vais vous mettre une petite pause musicale, tiens. Ok, je mets une pause musicale et puis une petite pub pour ceux qui ne sont pas abonnés. Voilà, je mets zéro pub juste quand je fais des pauses. Voilà. Histoire de vous occuper parce que je sais que vous aimez ça. Ok, à tout de suite, bande de beaux gosses. Allez, où la musique est là ? J'arrive ! Merci Bruno pour le raid, j'arrive. Je suis en pause pipi. Merci Bruno, bienvenue les Raiders. J'ai vu le clip, hein. Ok. C'est vrai que j'ai parmi mes nombreuses qualités. Il reste 23 secondes de pub, on va attendre les gens qui sont sous pub. Il y a comme le fait que je fais pipi très vite, quoi. Voilà, c'est fou ça. C'est fou ça. Je sais pas si c'est très utile pour construire une vie, pour réussir dans la vie, mais c'est vrai que je dois constater que quand même, ça fonctionne très bien de ce côté-là. Incroyable ça, je suis en pleine forme. Hop, je lis les mails, c'est-à-dire je supprime tous ceux qui ne sont pas intéressants, c'est-à-dire 99% d'entre eux. C'est vite fait. Le Grand Palais, qu'est-ce qu'il y a au Grand Palais? Ok. Secrétariat. Les gouvernements, les ministres qu'on voit leurs petits communiqués qui vont bien. Ah ok. 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 Je vous dis, hein, c'est un truc intéressant. Ok. 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 Excusez-moi. Ça c'est fait. Le musée du Quai Branly, ça c'est bien ça. Quoi? J'ai compris ça. Putain, les gens qui m'écrivent en anglais, pff, les gars, on souffle, hein. Je comprends rien moi. Mediapart, ok. Putain, mais c'est fou. Vous aussi, vous avez des boîtes mail comme ça de 600 mails en un quart d'heure? Concours international de piano d'Orléans, les gars. Qu'est-ce que je vais foutre? Renouvellement de votre traitement. Pourquoi? Ok, c'est bon. Ah, c'est l'enfer, hein. Excusez-moi. Ok. Est-ce qu'on peut aider Blaster? Vu qu'on en a parlé juste avant, est-ce que des gens auraient des tips qui pourraient m'aider d'arrêter de fumer? Nous demande Blaster, je l'ai déjà dit. J'ai bien diminué ma consommation, mais les clopes de routine d'habitude, c'est un cap trop grand pour moi. Je me sens un peu impuissant et démuni. Est-ce qu'on peut aider l'ami Blaster, les amis? En vrai. Ok. Bon, les amis, continuons avec ce petit coup de gueule de Papy Sam que j'ai déjà poussé ici, voilà, mais que je refais sur les endroits touristiques, notamment les hôtels, les campings, qui sont interdits aux enfants. Voilà, je sais qu'il y a plein de gens dans le chat qui trouvent ça formidable. Donne tout ton argent en sub à Sam, plus d'argent, plus de clopes. Ok, excellent tips, bravo. Où est-ce, qui en parle? Ce sont les échos ce matin. Les échos. Les hôtels interdits aux vieux? Ça n'existe pas ça. Pixel liquide? Il y a des hôtels interdits aux vieux? Il y a des hôtels où on te dit, passé 50 ans, 60 ans, 70 ans, t'as pas le droit de venir? Quel hôtel? Quel hôtel? Quel hôtel interdit aux vieux? Ouais, c'est une discrimination totalement illégale, ça. Raconte, raconte. Raconte. Exemple. L'hôtel Carlton de Ville de Lille interdit aux plus de 50 ans sur Viagra, par exemple. C'est la ref. Alors? Hein? Je vois pas quel hôtel est interdit aux vieux, quoi. Les auberges de jeunesse? Vous êtes cons, quoi. C'est pas un hôtel, ça. Ça, c'est rapport au pouvoir d'achat, ça. Ah, l'argument, c'est « je suis sûr que ça existe hein ». Ok, bon, je crois qu'on peut lire l'article, c'est bon. C'est parti, les échos. Source, t'inquiète. C'est le petit truc là en bas, tout petit là. Voilà. Hein. Tourisme, les enfants d'abord. un peu plus de cris, de rires et de larmes dans ce monde de brutes. C'est le souhait du gouvernement français qui a réuni mardi les acteurs des transports et du tourisme pour les mettre en garde contre la multiplication des offres sans enfants émanant d'hôtels, restaurants et autres croisiéristes. Si celle-ci porte la promesse d'un séjour calme pour certains adultes, les vieux irascibles qui supportent pas le bruit, là, venez, on a un endroit parfait pour vous. Voilà. Vous avez été enfant, on s'en balèque. Vous avez eu des enfants, on s'en balèque. Vous avez des petits-enfants, on s'en balèque, on n'en veut plus des enfants. Venez, venez, vous serez tranquille entre vioques, là. Venez, excusez-moi, je rappelle juste la plaquette publicitaire. Si celle-ci porte la promesse d'un séjour au calme pour certains adultes, ce n'est pas notre philosophie et ce n'est pas ce qu'on a envie de voir dans notre pays, a estimé Sarah El-Haïry, la haute commissaire à l'enfance sur RTL. Eh bien, je suis complètement d'accord avec elle. Considérer de manière brutale qu'un enfant est avant tout une nuisance, ça n'est pas acceptable. Je redis doucement cette phrase. Voilà. Considérer de manière brutale qu'un enfant est avant tout une nuisance, ce n'est pas acceptable. Plus globalement, la place des enfants dans l'espace public tend à se réduire, ce qui nuit à leur santé physique et mentale, font valoir de nombreux spécialistes. Réunis, les représentants des campings, des résidences de tourisme, de l'hôtellerie-restauration, des transports ont été pris de ne pas laisser cette tendance s'installer, voire de s'inspirer même de certains acteurs spécialisés dans l'accueil des familles comme Bellambra ou Pierre et Vacances Center Parks. La Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, elle a proposé de mettre à disposition son savoir-faire en la matière. Alors, petit bémol, avec seulement une vingtaine d'hôtels et autant de campings interdits aux enfants, le phénomène reste embryonnaire en France. Vous avez une vingtaine d'hôtels en France qui sont interdits aux enfants. C'est que dalle, en fait. Idem pour les campings. Mais c'est une tendance qui vient d'étrangers, qui pourrait s'installer. Donc le gouvernement dit, attention les gars, on ne veut pas d'une société qui dit non aux enfants. À titre de comparaison, il y a plus de 150 campings naturistes qui eux-mêmes sont très marginaux. Ah oui. Souriant professionnel. Mais le phénomène adults only, populaire en Asie, est tout de même très surveillé par l'exécutif qui envisage des actions sur le terrain judiciaire. Ah, sur le terrain judiciaire ? Alors quelqu'un vient me dire, mais c'est pas illégal ? Bah peut-être, papillon de lumière. Peut-être qu'en France, en tout cas, c'est illégal, puisque quand l'exécutif dit on est prêt à des actions sur le terrain judiciaire, c'est donc qu'effectivement cette discrimination serait illégale. Voilà. Sauf qu'elle l'est peut-être pas dans certains pays. Moi, je rappelle toujours la même anecdote qui est, je suis un peu vieux et je radote. Un jour j'ai voulu aller en Grèce, voilà, et puis moi j'ai pas beaucoup de goût de luxe, mais j'en ai un, j'aime bien aller dans les beaux hôtels. Bon, voilà. C'est le principe, c'est mon plus gros poste de dépense, c'est les vacances, j'aime bien me faire plaisir. Et donc chercher un bel hôtel en Grèce, et là, tous les hôtels, les 4-5 hôtels qui m'avaient le plus plu, et ben en fait ils étaient tous interdits aux enfants. Voilà. Et j'ai dit à mon épouse, eh ben on va pas aller là. Voilà. Et donc je me suis rendu compte qu'en certains pays, c'était un truc qui était. Qui était déjà développé. Mais peut-être qu'en France, c'est totalement illégal. Si le gouvernement parle éventuellement d'action sur le terrain judiciaire, c'est que ça doit être illégal, je suppose. Alors, je sais que vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais moi, je pense qu'en fait, c'est une histoire de symbole, c'est une histoire de tendance. C'est-à-dire que commencer à accepter une part de la société soit fermée aux enfants, je pense que c'est pas un très bon signal. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est les gens qui ne pensent pas comme moi. Neo Passenger, effectivement, je suis pas d'accord sur ce sujet des enfants. En tant qu'adulte travaillant avec des enfants, ah bah oui, mais c'est parce que t'en peux plus, toi. C'est normal. Dans mon quotidien, j'évite tout espace où ils peuvent se trouver pour ma détente. Ah bah oui, mais toi, t'en peux plus, toi, t'es au bout du rôle aussi. C'est ton taf. Ouais, ouais, c'est normal. C'est comme moi, par exemple, à la maison, je parle pas. Je suis très silencieux, je suis très taiseux, parce que comme mon travail, c'est de parler tout le temps, à la maison, je parle pas. Je suis très calme, très silencieux. Voilà. Toi, c'est pareil, t'en peux plus des enfants, en fait. Non, ça, t'es un cas à part, toi. C'est ton taf, quoi. Je me mute. Ouais, je me mute, IRL. Merci, Yannounours. Ah non, la maison, c'est très calme. La maison, c'est très silencieux. En plus, Malo et Solal se chargent de l'ambiance, hein, en termes d'ambiance, de volume sonore, de baston, hein, de petits combats de MMA, vite fait. Dans les couloirs, il y a ce qu'il faut. Donc voilà, je ne rajoute pas de volume sonore à tout ça. Voilà. Poum me dit, il me semble qu'il est illégal d'interdire l'accès à certains commerces en France à des gens, peu importe le critère. C'est juste que jusque-là, on n'avait pas pensé au critère âge, parce que c'est un phénomène assez nouveau. Oui, ils font du MMA, ouais. C'est vrai, ouais. Ah, on est d'accord, Meiji. J'aime passer du temps avec des enfants, mais parfois, il faut avouer qu'il y en a qui sont difficilement supportables, mais c'est pas tant la faute des enfants, donc peut-être qu'il faut se pencher sur les adultes élevant ces enfants. Je suis mille fois d'accord avec vous. Complètement. C'est-à-dire qu'en fait, un enfant qui est une source de nuisance dans un endroit public, sauf douleur, un petit bébé qui pleure par exemple, c'est pas un bébé qui pleure pour le plaisir, hein, les spécialistes de l'enfance et les parents le savent, un bébé qui pleure, c'est un bébé qui manifeste un problème. Il a faim, ou il a mal, etc. Mais quand l'enfant n'est plus un bébé et qu'il casse les couilles à tout le wagon, parce qu'en fait, il casse les couilles tout le temps, parce qu'il a reçu aucune éducation, aucun cadre, aucune bordure, alors que tu peux avoir tout à fait donner une éducation positive aux enfants dans l'amour, dans l'attention, dans l'empathie, mais en donnant des cadres, on est bien d'accord. Mais le problème, c'est pas l'enfant. Le problème, c'est pas l'enfant, c'est le parent. Hein, voilà. Et là, effectivement, il y a un problème qui est un problème de parents. Voilà. Des parents qui laissent un enfant devenir... Une source de nuisance dans un espace public comme un truc, le problème c'est le parent, quoi. Hein, un enfant qui fait du bruit dans un espace public où les gens veulent être un peu tranquilles, et ben, enfin, le parent il doit intervenir, il doit expliquer à l'enfant que c'est pas possible. Voilà. Bien sûr, mais ça on est d'accord, mais c'est autre chose, ça c'est autre chose. Et je pense pas que la solution à la mauvaise éducation de certains parents soit d'interdire l'accès des enfants à une partie de l'espace public, parce qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui sont bien élevés. Et des parents qui font attention aux autres. Oui, c'est ça, en fait. Tout à l'heure, on s'est dit, c'est pas forcément l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans qui est la solution, c'est peut-être l'accompagnement des plus jeunes dans l'utilisation de l'Internet et des réseaux. Bon, ben là, c'est pareil. La solution, c'est pas forcément l'interdiction, c'est peut-être d'un moment de mettre les choses en place pour que les parents... élèvent leurs enfants de façon correcte, quoi. Mais c'est vrai qu'on a... Alors, ça se voit plus dans l'avion ou dans le train, parce que c'est un espace clos, donc on peut pas s'en échapper. Mais c'est vrai que les parents qui ne s'occupent pas de leurs enfants source de nuisance, ont envie de leur péter la gueule, quoi. Non, mais faut dire les choses, quoi. Mais, comme semble le dire l'article, il y a un cadre légal en France qui fait que tu ne peux pas interdire l'accès à une catégorie de la population, c'est de la discrimination à un espace commercial, quoi. Bon, sauf un club échangiste, bien sûr. Je suppose que là, bon, je ne me suis pas penché vraiment sur le sujet, le cadre juridique, normatif du club échangiste, mais il me semble, je pense qu'il doit être interdit au moins de 18 ans. Je pense que la loi doit interdire au moins 18 ans d'y aller, je pense. Donc, pour le coup, la loi va être volontairement discriminante, mais pour protéger les plus jeunes, quoi. Je pense. Hein. Dans le train, j'ai déjà eu le petit qui vient te claquer les genoux quand tu t'endors parce que ça le faisait rire et ses parents aussi l'enfer sur terre. Ouais. Bon, moule-bite, dans ces cas-là, t'as le droit de mettre une petite calotte aux parents, quoi. Touche pas aux enfants, tu te lèves, tu calotes les parents et s'ils te demandent pourquoi, tu leur dis Samuel Etienne m'a fait un mot. Voilà. Et d'ailleurs, il va venir vous voir aussi parce que c'est pas possible. Voilà. Un enfant t'emmerde dans le train, voilà, tu te lèves, tu mets une petite calotte aux parents, quoi. Voilà. Ça va caloter. Oh oui, bon, on calote un peu là. On leur dit, quoi. Non, faut jamais frapper personne, bien sûr, c'est pas la solution, mais quel enfer, quoi. Moi, j'ai un peu honte. Je fais un truc qui gêne tellement Hélène. Oh là là, je sais pas pourquoi je fais ça. Ça, c'est mon côté dark. J'avoue. Anecdote que je n'ai jamais racontée, parce que c'est pas le trait de caractère dont je suis le plus fier de moi. Hélène déteste quand je fais ça. Quand quelqu'un dans un wagon, par exemple, de train, et notamment, non, tu pètes en public, oui, mais ça, c'est pas ça. Non, ça va, ça. Ça, c'est non, Ça, je le fais avec beaucoup d'élégance. Quand vraiment quelqu'un dans un wagon est une nuisance comme ça sonore, notamment un adulte, en fait, je fais l'écho. Je fais l'écho. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un a une conversation à haute voix, vous savez, ces conversations passionnantes de « oui, je suis bien dans le train !»« Oui, oui, mais je suis bien dans le train !»« Oui, et on se voit à la sortie du train !»« Oui, non, ah, ça passe pas, je suis bien dans le train !» Voilà. Voilà. Alors moi, je fais l'écho. Je fais l'écho et je répète ce que dit la personne avec le même niveau sonore. Voilà, où je réponds, je crée une conversation virtuelle comme ça, où je réponds à la personne. Voilà. Et Hélène déteste quand je fais ça. Voilà. Je sais pas ce qui me prend, je peux pas m'empêcher quoi. Je fais le troller ultime quoi. Ouais. Là, mardi, on est allé prendre un verre avec Hélène pour se reposer un peu là. Mardi soir, et puis et à côté de nous, s'est installée une pure attitude de parigo. Ouais, je sais, j'ai un peu honte, hein, je suis dark. Hein. Il y a une table d'Américains qui s'est posée derrière nous, là, je sais pas, vieux, jeune, nous on était deux, ils étaient genre huit, tu vois, pour boire un coup. Et les Américains, souvent en public, oh là là, mais merci Médecin Geek, mais qu'est-ce qu'ils parlent fort. Mais alors, un manque d'éducation, alors peut-être pas tous les Américains, mais franchement, hein. Ah là, et ça parle fort avec leur accent affreux, là. Ah là. Genre, tu sais, les maîtres du monde, tu vois. Hein, et c'est un peu... ils ont l'impression d'être tellement formidables qu'il faut imposer leurs conversations qui n'ont aucun intérêt de touristes à Paris, là, au reste du bar ou du resto, quoi. Mais on s'en bat les couilles de votre vie, en fait. On s'en... Ouais, tout le monde parlait doucement. T'as 30 personnes dans le bar, t'entends personne. Et t'as les 8 ricains derrière qui beuglent, quoi. C'est dans leur culture. Bah ouais, culture de merde à un moment, tu vois. Ouais, amazing Eiffel Tower, quoi. Mais on s'en bat les couilles, tu vois. Et c'est vraiment un manque d'éducation, là. Alors, pas tous, hein, bien sûr. Il y a des Américains qui sont éduqués, quoi. Et donc, j'ai refait ça. J'ai refait ça dans le bar, là, qui était un bar un peu chic et tout. J'ai refait pareil, quoi. Et donc, j'ai imité la... Il y avait une voix derrière un peu jeune, un petit peu nasillarde qui parlait encore plus fort que les autres. Et donc j'ai imité la voix de la personne et j'ai fait l'écho, quoi. Oh là là. Hélène n'a pas commenté. Je sais qu'elle teste ça. Et ils ont fermé leur gueule. Et on les a plus entendus. Ah ouais. Instant. Ah, je suis pas fier de ça. Mais j'ai réglé le problème pour la salle en vrai. Voilà. Je fais 1m10, je fais 12 kilos, voilà. Mais je sais pas, les mecs sentent dans le ton qu'en fait je suis fou, quoi. Loco, quoi. Voilà, le fou du bus. Je suis désolé. Ouais, c'est pas bien ça. C'est mon côté dark. Celui que vous voyez dans Valo, je supporte pas les gens qui ne respectent pas l'espace collectif, quoi. La tranquillité des autres, ça me rend dingue. Donc voilà, et un parent responsable, ben un enfant dans un transport, un espace quoi, il le gère, quoi, il s'en occupe. Nous, quand on avait les petits qui pleuraient dans le train, parce qu'ils étaient, je sais pas, malades ou qu'ils avaient faim ou que sais-je, en fait, ben on sortait, on se mettait dans l'entre-rame là, entre les deux rames pour limiter la nuisance au maximum, quoi. C'est la base en fait. Moi, je pense qu'il faut pas évidemment pas interdire l'accès des enfants à l'espace social en aucune manière. Une société qui fait ça, c'est une société qui envoie un très mauvais signal. Mais en revanche, il faut que les parents soient responsables, quoi. Alors, on met sur les plateformes. C'est là, tu vois, c'est normal. C'est le vivre ensemble, en fait. Sinon, c'est insupportable, quoi. Dans le train, il y a peut-être des gens qui n'ont pas dormi, qui sont crevés, que tu vois. T'as envie de se reposer un peu, quoi. Est-ce qu'il faut un permis pour être parent? Non, justement, parce qu'il ne faut pas interdire, il ne faut pas imposer, il faut juste expliquer aux gens qu'à un moment, il faut être responsable, quoi. Comme le dit Ergo, interdire l'espace social aux enfants, c'est les empêcher d'apprendre à vivre et à grandir dans cet espace. Et de la même manière, je n'interdis pas, je ne veux pas qu'on interdise l'espace social aux touristes américains. Hein, c'est pas de leur faute, ils ont été mal élevés, Voilà, ça gueule, ils sont persuadés d'être les maîtres du monde. Bon, ben, c'est leur éducation, quoi. Donc, faut pas leur interdire cet espace social. Par contre, faut leur dire que c'est pas possible, ils peuvent pas se comporter H24 comme des beaufs, quoi. Pas chez nous, chez eux s'ils veulent, quoi. C'est la France, mesdames et messieurs. Voilà. Pas pour l'interdiction, moi. Pour la prévention, l'éducation. Ouais. Du coup, je fais l'écho. Je fais l'écho. Mais oh, il est midi. Ah putain, bon, on se dépêche. Je devais m'arrêter à midi. Il faut que j'écrive mon MVP là. Bon, on va sur le dernier truc. C'est Anne-Sophie Lapix, c'est la une du Parisien. Deux pages. Débarqué du 20h de France 2. Moi, j'aime pas trop parler de l'actualité des médias parce que j'ai l'impression de me regarder un peu le nombril. C'est pas passionnant. Mais bon, là, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà, donc. Et puis c'est bon, deux pages dans le Parisien. Voilà, puis comme ça, on en aura parlé. Anne-Sophie Lapix, débarquée du 20h. Débarquée parce qu'elle l'a pas tellement souhaité. Évincée, donc. La journée de 53 ans, mise sur la touche du JT de France 2 à cause de ses audiences. Ça, c'est la version officielle. Bon, elles ne sont pas mauvaises, les audiences, mais elles pourraient être meilleures, estime la direction de France 2. On verra ce qui va se passer après. Et de sa difficulté à attirer des invités politiques. Ah oui, les invités politiques, ils n'aiment pas trop Anne-Sophie Lapix parce qu'en fait, elle pose des questions. Ah, quelle heure aussi. Pourrait être remplacée par Caroline Roux, qui est une grande spécialiste justement des interviews politiques, mais d'autres pistes existent. Voilà. Je vous lis pas tout, hein. Voilà. Donc il y a un communiqué. La direction de l'information de France Télévisions remercie Anne-Sophie Lapix pour son talent, son engagement et son immense professionnalisme au service de l'information du service public ces 8 dernières années. Donc elle a été top. Hein. Fallait peut-être la garder alors. Voilà. Voilà. Et le groupe France Télévisions travaille avec elle sur de nouveaux projets pour la rentrée. Bon, est-ce que Anne-Sophie Lapix va vouloir continuer à travailler avec France Télévisions? Ça, on ne sait pas encore. Ça, France Télévisions voudrait bien travailler avec elle, mais ça, elle n'a pas encore répondu. Cette décision n'est pas celle d'Anne-Sophie Lapix, mais celle de Delphine Ernotte, la dirigeante qui vient d'être reconduite pour un troisième mandat. Elle a annoncé lundi à journée de 53 ans. Donc déjà, ça, déjà, c'est classe. Parce que c'est pas souvent dans l'univers médiatique. Mais déjà, Anne-Sophie Lapix l'a a pris de la direction et pas dans les médias, ce qui arrive bien souvent. Rien n'a fuité de leurs échanges. Ernotte a voulu donner un second souffle et essaye de justifier l'entourage de la PDG. On analyse ce genre de changement par le prisme politique, mais comme toujours, la seule chose qui a joué, ce sont les audiences. C'est le nerf de la guerre, l'alpha et l'oméga de tous les médias. Décortique un vieux briscard du PAF. Bon, alors, audience, pas audience. Depuis les records d'enregistrement, très bonne question d'ailleurs, de Jerry. Samuel, est-ce que les audiences des JT dépendent tant que ça du présentateur? Est-ce qu'on a des estimations là-dessus? Déjà, l'audience, ça n'est pas que le présentateur, effectivement. Alors, depuis les records d'enregistrement, les records enregistrés pendant le confinement d'audience, les audiences du JT de la 2 n'ont cessé de chuter. L'édition du soir est basée bien en dessous de la barre des 4 millions de téléspectateurs, le seuil fixé par la direction, ce qui fait 1,44 millions de fidèles avec le 20h de TF1, qui a toujours été devant. Voilà. Donc il y a fait un différentiel d'audience qui serait trop important. Alors, d'autres disent, c'est un peu plus compliqué que ça, Anne-Sophie paye chèrement l'échec de la nouvelle formule du 20h, c'est le JT rallongé à 1h, lancé à la hâte en septembre, qui était un projet de qui? Pas d'Anne-Sophie Lapix, mais de la direction de l'information. Elle et ses équipes avaient été prévenues quelques jours seulement avant le lancement, grâce à un reporter, qui applaudit, lui, le professionnalisme de la future ex-star du journal, et il dit « Elle a fait un super job. » Tiens, pardon, j'ai un message important. Elle est super. Elle est très solide vis-à-vis des pressions. C'est l'autre point noir du bilan d'Anne-Sophie Lapix. Toute la classe politique ou presque lui tourne le dos, alors ça c'est intéressant, déplorant ses mots rieuses et son ton ironique pendant ses interviews. Durant ses 8 années de JT, on a cessé de commenter son boycott par Emmanuel Macron, Lapix a été écarté du débat d'entre-deux-tours de 2022, remplacé par Léa Salamé, quand Caroline Roux récupérait les invités politiques principaux dans son émission L'Événement. Voilà. Les dirigeants politiques ne cessaient de demander la tête de Lapix à Ernotte, qui a toujours résisté envers et contre tout, se souvient un journaliste de la rédaction. C'est vrai que les journalistes ne voulaient pas, les hommes politiques souvent, les hommes et les femmes, ne voulaient pas être interviewés par Lapix. Ce qui semble dire qu'elle faisait de bonnes interviews, du coup. L'inverse de Caroline Roux, qui est cette dame là, qui est fait office de favorite pour la remplacer, mais on dit qu'elle veut pas le faire. Les rumeurs disent qu'elle est pas tellement intéressée par le poste. Même âge, même profil. Mais l'actuelle présentatrice de C'est dans l'air, un atout de poids, l'ensemble de la classe politique apprécie son ton. Donc voilà, après c'est les remplaçants, qui va la remplacer, bon ça c'est, ça m'intéresse moins. Voilà. Voilà. Et là on a le retour sur le parcours d'Anne-Sophie Lapix. Elle aura tenu un peu plus d'un septennat, ce qui est déjà pas mal à France 2. Alors, elle a fait, je crois, 8 ans à la tête du 20h. C'est très compliqué de durer, hein. C'est des postes, c'est vraiment des sièges éjectables. Voilà. En tout cas sur le service public, sur TF1, et au contraire, eux, ils choisissent depuis longtemps de laisser très longtemps les incarnations. Voilà. Sur France Télévisions, ça, à une époque, ça changeait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc 8 ans, c'est pas mal. Donc après, ils reviennent sur le CV et le parcours d'Anne-Sophie Lapix, c'est une très bonne journaliste. Delphine Ernotte, patronne de France Télévisions, a vanté sa pugnacité, justement, lors des interviews politiques. Mais elle estime aujourd'hui que c'est que le journal a besoin d'un second souffle. Le vent a tourné à la sortie du Covid, commente une figure de la rédaction. Dans sa tête, notamment les traces laissées par l'interview en duplex d'Edouard Philippe en mars 2020, après l'annonce du confinement. Un entretien lors duquel la prestation d'Anne-Sophie Lapix ulcère la Macronie et le principal intéressé, donc Edouard Philippe, qui arrachera son oreillette de rage, de Dieu, dès la séquence terminée. Voilà. De Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen, en passant par Xavier Bertrand, bon, elle fait l'unanimité contre elle, hein, c'est bien. La liste des politiques agacées par la star de France 2 s'allonge. L'Élysée aussi. Voilà. Un de ses soutiens dit au contraire, elle a surtout le défaut de bien faire son métier et de les pousser, les inviter dans le retranchement. Voilà. La professionnelle laissera un souvenir fort, dans la mémoire de ses collègues. Elle a tenu la baraque pendant 8 ans dans des moments très compliqués d'actualité. C'est une grande pro, quelqu'un qui aura marqué l'histoire du 20h de France 2, résume l'un de ses collègues. Je suis complètement d'accord avec cette phrase. Voilà. Bon, c'est une petite actualité du PAF, hein. C'est pas... Ça n'a pas changé la face du monde, mais bon, je voulais vous parler de cette actualité parce que c'est une grosse actualité médiatique, quoi. Bon, je vois que certains l'appréciaient plutôt. Je vous lis. C'est qu'elle fait bien son travail, oui, me dit Adéna, c'est comme Élise Lucet, cache investigation, à faire frissonner n'importe quel col blanc digne de ce nom. Point faible, trop forte, me dit Sidness. Après, il y a peut-être le truc des audiences. Après, franchement, est-ce que l'incarnation suffit? Est-ce qu'une nouvelle incarnation suffirait à réduire le delta d'audience entre TF1 et France 2? Un JT comme ça, c'est vraiment... La réussite d'un JT, c'est vraiment un cocktail, une recette très difficile. Avec les éléments suivants, la qualité des reportages, des enquêtes, des sujets, la ligne éditoriale, les choix éditoriaux, la hiérarchie de l'information, l'habillage même visuel et sonore, la durée, on a vu que là, par exemple, la durée portée à une heure n'avait pas trop fonctionné, et l'incarnation aussi, bien sûr. Mais c'est tout ça, quoi. Et la qualité du travail de rédaction derrière, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc, vous prenez le même JT, vous changez l'incarnation, ça va rien changer, ça peut même, à mon avis, que diminuer. Alors après, ici, il peut y avoir des changements sur le journal en lui-même, quoi. Les audiences baissent, mais qui gagnent sur les TF1? Les audiences baissent pas vraiment. C'est-à-dire que le TF1 a toujours été devant, et TF1 reste devant, quoi. On est quand même sur du 4 millions de téléspectateurs quotidiens, c'est gigantesque. Ça existe vraiment, Samuel, les politiques qui contactent des présidents de chaîne pour recommander des cartels de journalistes? Bien sûr, Surban, ça existe. Après, c'est au directeur de chaîne d'accepter ou pas la pression, mais évidemment que tout lobby politique, économique, régulièrement, tente d'influer sur les médias. Et là, par exemple, pour les interviews politiques, là, c'est très très clair. Quand par exemple, une invitation a été lancée à un politique pour tel rendez-vous, imaginons le 20h de France 2 d'Anne-Sophie Lapix, vous pouvez tout à fait avoir la réponse de la personne invitée, politique, qui répond tant que c'est Anne-Sophie Lapix, je ne viendrai pas dans votre journal. Ça, c'est un truc que vous pouvez entendre dans notre milieu, c'est un truc qu'on entend, quoi. Ouais. Après, aux médias d'accepter ou pas cette pression, quoi. Imagine un stream à 4 millions. Ouais, tu m'étonnes. Bon, les amis, je vais aller bosser. Faut que je vous prépare ça. Pop. Voilà. Hop, le MVP. Le MVP de tout à l'heure, 18h. Sauf qu'elle n'est pas... Elle n'est pas écrite, cette émission. Il faut que je l'écrive. Voilà. J'ai un peu de taf. Donc là, il faut que je me dépêche. Voilà. Et je crois... Par ailleurs... Attends. Je crois que on a un invité supplémentaire qui n'était pas annoncé. C'est Donald Renew. Voilà. Ouais, qui vient d'être officialisé. Hop. Hop. Ouais. Donald. Qui sera notre invité MVP. Et MVP, je l'ai, j'ai le compte. Là, je pense qu'ils l'ont lancé. Il est là. Voilà. Donald Renew. Voilà. Qui sera notre invité MVP. Pas mal, ça. Attends, un truc. Hop. Voilà, c'est bon. Voilà. Reviens là. Voilà. Voilà. Renew, hein, pas Trump. Hein. Ouais, oui, oui. Voilà, donc on a invité Spider-Man. Exactement. Et Titeuf aussi. Voilà, doubleur exceptionnel. Alors, on n'a pas fait la grande distribution encore, Néono. Voilà. Voilà. Et streamer. Et streamer. Voilà. Et je crois qu'il est né une très belle date. Je crois que Donald Renew. Je crois qu'il est né, je crois que c'était son anniversaire il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il est né un 20 mai, qui est une très très belle date. Voilà. Voilà. Donc il sera notre invité à la fin de l'émission sur la dernière heure. Voilà. Alors, qui est en live actuellement, qu'on allait faire un petit raid Ok.
Une bonne âme pour moi.
Bien lui. Je vais quitter en live. Il y a du monde en live, ça fait plaisir en vrai. Bah, je vois plein de trucs sympas en vrai. Attendez, j'hésite entre deux amis. Vous voulez qu'on reste sur l'actu? On reste sur l'actu? Hein, ça vous va? Ok, on va voir un confrère. Allez, on reste sur l'actu. Let's go. On va chez l'ami Mathieu Burgalassi. Ouais, qui est un chouette camarade, je crois qu'il est chercheur à la base, hein, peut-être en sciences politiques à la base, je sais plus. Mathieu, c'est quoi sa formation? Voilà. Il est streamer, et il parle d'actu, et il est sympa, et il est brillant, let's go. On fait ça? Allez, on reste sur l'actu. Voilà. Je vous retrouve à 18h pour MVP, peut-être ce soir si on est fou, pour du... Anthropologue. Exactement, il est anthropologue de formation, bien vu. On se retrouve tout à l'heure, ok? Merci pour ce matin, c'était un plaisir. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez aussi. Voilà. Allez, pensez à vous. À tout à l'heure. Merci encore. Ciao.
Pas la vie des autres, en fait. J'ai quelqu'un qui m'a écrit « Ah ouais, Mathieu? Ah ouais? Bah d'accord, ça va pas, il y a des déserts médicaux, mais moi, comment je fais? Tu vois, j'ai mon mari, il doit aller travailler ailleurs. »